I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour Soir Info Week-end. À la une ce vendredi, Vladimir Poutine promet la victoire à la Russie après avoir annexé 4 régions du sud de l'Ukraine. 2 discours du chef du Kremlin et une seule ligne, tout pour son peuple, quitte à défier l'Occident et les États-Unis. Faut-il y voir une démonstration de force de Vladimir Poutine ou un aveu de faiblesse? On en parle dans un instant et on sera en direct avec le général Bruno Clermont pour voir ce qu'il se passe sur le terrain. Depuis Kiev, Volodymyr Zelensky a condamné les propos de Vladimir Poutine, refuse de négocier avec lui et attend un nouveau président. L'Ukraine accélère sa demande d'adhésion à l'OTAN alors que l'annexion des 4 régions n'ont pas été reconnue par l'Europe et les États-Unis. Alors maintenant, que va-t-il se passer? Faut-il faire entrer l'Ukraine dans l'OTAN et craindre une troisième guerre mondiale? Élément de réponse dans cette édition. Enfin, dans l'actualité également, un mois, jour pour jour, après le début de sa cavale, Hassan Iqiyoussen a été arrêté en Belgique. Le prédicateur fiché S est proche des frères musulmans. Va-t-il revenir en France, puis être expulsé au Maroc? Voilà le programme de Soir Info Week-end. Et avant de vous présenter le plateau, on fait un point sur l'information, ce qu'il faut retenir ce vendredi soir.
Vladimir Poutine officialise l'annexion de 4 territoires d'Ukraine. Elle concerne les régions de Donetsk, Louhansk, Zaporijjia et Kherson. Dans son discours, le président russe a fustigé l'Occident. Il appelle Kiev à cesser les hostilités. Des annexions condamnées par Emmanuel Macron. Le président français parle, je cite, d'une violation grave du droit international. Il assure que la France se tient aux côtés de l'Ukraine pour faire face à l'agression de la Russie. Même son de cloche à Washington. Dans un communiqué, Joe Biden parle comme son homologue français d'une violation du droit international. Le président américain promet de nouvelles sanctions contre la Russie et ses potentiels soutiens. Il assure que Washington continuera d'aider l'Ukraine pour regagner le contrôle de son territoire. Et puis Cédric Jubilard, maintenu en détention. La Cour de cassation a annoncé ce vendredi le rejet d'un recours de ses avocats. Il cherche depuis plus d'un an à obtenir sa mise en liberté. L'homme est soupçonné du meurtre de sa femme Delphine.
Pour le point sur l'information, il y a du monde sur le plateau de Soir Info Week-end et c'est normal parce qu'il y a beaucoup d'actualités. On est avec Pierre Gentillet ce soir.
Bonsoir.
Maître Gentillet, bonsoir. Gérard Vespierre, c'est un plaisir de vous retrouver sur le plateau de Soir Info Week-end.
Merci.
Je vais le dire aux téléspectateurs, tout à l'heure j'ai dit on ne va pas faire que de la Russie ce soir, il y a d'autres thèmes dans l'actualité. Vous avez dit oui, on va faire aussi de l'Ukraine. Vous avez toujours le petit mot et c'est un plaisir de vous retrouver. On est avec Arthur Muriot, journaliste CNews. Et Arthur, vous avez des éléments à nous apporter, chiffrés sur la guerre économique et puis aussi la guerre sur le terrain. Philippe Guibert.
Bonsoir Elliot.
Tu es enseignant et consultant. Merci d'être avec nous Philippe. Karima Brick, merci d'être avec nous et bonsoir Karima. Je vous propose vraiment de faire très attention à votre téléphone ce soir. Il me dit, mais pourquoi il me dit ça? Il est complètement fou. Vous avez un espion à côté de vous.
Oui, c'est ça.
Un ancien espion du KGB.
Absolument.
Donc faites très attention à vos affaires.
Donc je ne me méfie pas juste de mon téléphone.
Oui, de tout, de tout. Vous faites très, très attention parce que Sergueï Girnov, c'est comment faire. C'est comment faire. Bonsoir.
C'est déjà trop tard.
Sergueï Girnov, bonsoir, ancien espion du KGB, auteur de L'Engrenage. Que veut Poutine? C'est une des questions qu'on va se poser. Jusqu'où peut aller Poutine? Que veut Vladimir Poutine? Et on a fait quelque chose d'assez. Moi, je trouve ça sympa parce qu'on a pris le micro et on est allé vers les Français et c'est eux qui vont vous poser certaines questions. On a six Français et Françaises qui sont venus et qui ont posé une question face caméra. C'est à vous d'y répondre. Ça sera sur, évidemment sur ce thème sur la guerre en Russie, en Ukraine. Les hurrahs de Vladimir Poutine, le chef du Kremlin, a donc célébré l'annexion des 4 régions du sud de l'Ukraine. Une première victoire pour le chef du Kremlin. Une farce pour Volodymyr Zelensky. Vous voyez, encore une fois, ce face-à-face. On voit cela et on en parle.
Aujourd'hui est un jour particulier, un jour festif et sans aucune exagération, un jour historique. Le jour de la vérité et de la justice. La Russie n'ouvre pas seulement les portes de sa propre maison à nos frères et sœurs, mais aussi son cœur. Bienvenue à la maison. Nous sommes devenus plus forts parce que nous sommes ensemble. Parce que la vérité est avec nous. Et dans la vérité, il y a la force. Voilà pourquoi la victoire sera nôtre.
L'ensemble du territoire de notre pays sera libéré de cet ennemi, l'ennemi non seulement de l'Ukraine, mais aussi de la vie elle-même, de l'humanité, du droit et de la vérité. La Russie le sait déjà. Elle sent notre puissance. Elle voit que c'est ici, en Ukraine, que nous prouvons la force de nos valeurs. Et c'est pourquoi, dans la précipitation, elle organise cette farce avec la tentative d'annexion. Il tente de voler quelque chose qu'il ne lui appartient pas. Veut réécrire l'histoire et redessiner les frontières avec des meurtres, des tortures, du chantage et des mensonges. L'Ukraine ne le permettra pas.
Gérard Vespierre, est-ce qu'on va inscrire cette journée dans les livres d'histoire ou est-ce que c'est une farce, comme le dit Volodymyr Zelensky?
Ah, je pense que oui, on va le mettre dans les livres d'histoire parce que, contrairement à ce qu'on peut voir là, la Russie est de plus en plus seule. Elle est de plus en plus seule par rapport à ses alliés chinois, indiens ou partenaires qui ont fait un pas de côté. Elle est de plus en plus seule avec les anciens pays de l'Union soviétique, Kazakhstan, Arménie et compagnie, qui disent « oui, on supporte l'Ukraine, on n'est pas avec vous ». Et puis, vous avez maintenant 500 000 Russes qui ont quitté le territoire du pays.
Sur 140 millions d'habitants.
Mais ce sont des gens qui ont les moyens, qui appartiennent à la classe, je dirais, très opérationnelle de la production et de l'économie.
J'ai quand même l'impression que le discours chez les spécialistes change un peu, Sergueï Virnov. Parce que là, vous avez dit, et c'est très intéressant, vous avez dit la Russie est de plus en plus seule. Il y a 2-3 semaines, on disait Vladimir Poutine est de plus en plus seul. Or, regardez cette séquence qui est très intéressante, puisque j'ai l'impression qu'une partie de la population soutient son chef et son patron. Séquence « Hourra !» c'était sur la place rouge. Philippe Guibert, on le disait isolé, on le disait fragilisé. Est-ce que c'était une démonstration de force aujourd'hui ou un aveu de faiblesse?
C'était une démonstration de communication, en tout cas. Peut-être un aveu de faiblesse. Il avait besoin de cette démonstration de communication parce que, comme vous le disiez, on a eu ces dernières semaines surtout des images de Russes qui fuyaient ou qui essayaient d'échapper à la mobilisation partielle. Et là, effectivement, il nous a présenté un show magnifique. Avec un appui populaire dont on ne connaît pas la nature. Enfin, en tout cas, il y avait du monde. Et je pense qu'il avait besoin de ça pour reprendre l'initiative, parce que ça faisait plusieurs semaines entre les revers militaires et la mobilisation partielle qui a quand même suscité pas mal de remous, vous disiez, beaucoup de départs. Il avait besoin de ça pour reprendre l'initiative. Là, maintenant, le problème, c'est qu'il a... Il a mis un mur en face de Zelensky, c'est-à-dire que les quatre régions appartiennent à la Russie maintenant, de son point de vue, mais pas du point de vue du droit international.
Ouais. Pas des régions, des territoires.
Des territoires,
des
pardon.
Des territoires, c'est pas des régions.
Et donc ça fait partie des intérêts vitaux de la Russie, ces quatre territoires. Et
on
donc
ça veut dire
qu'il peut utiliser des armes pour défendre les intérêts vitaux de la Russie, me semble-t-il.
On va y venir, justement, et c'est peut-être ça la clé, alors qu'on voit ces quatre territoires qui ont donc été officiellement annexés cet après-midi, Kherson, Zaporijja, Donetsk et Lugansk. Regardez le communiqué de l'Elysée. Le président de la République condamne fermement l'annexion illégale par la Russie des régions ukrainiennes. Il s'agit d'une grave violation du droit international comme de la souveraineté ukrainienne. La France s'y oppose et se tient aux côtés de l'Ukraine pour faire face à l'agression de la Russie. Et c'est ça qui est important. Et recouvrer sa pleine souveraineté sur l'ensemble du territoire. Première question qu'un Français va vous poser. Il s'appelle Charles. Il est étudiant. Écoutez.
Bonjour, je m'appelle Charles, je suis étudiant en Master 2 de droit public. Et la question que j'ai, c'est à quel point Poutine est capable d'aller loin? Est-ce qu'il veut reconstituer l'URSS ou juste il a des ambitions uniquement sur l'Ukraine? Voilà, donc somme toute ma question, doit-on s'inquiéter de voir Poutine débarquer chez nous un jour?
L'ancien espion du KGB doit répondre, Sergueï Girnov.
Poutine, il voudrait peut-être beaucoup de choses. Est-ce qu'il peut ? Parce que, je vous rappelle, la principale information aujourd'hui, c'est pas ce qu'il a déclaré, c'est qu'il y a toujours la guerre en Ukraine. C'est qu'il y a toujours 150 000 hommes qui mènent bataille sur le front. Le front, il est toujours là. Ils sont toujours là. Les Ukrainiens les bombardent. Eux, ils bombardent les Ukrainiens. Et donc, à la limite, en fait, ces référendums, ça aurait pu être un événement si c'était terminé. Si les batailles étaient acquises, si toutes les républiques étaient acquises, si tout le territoire était acquis, ce n'est pas le cas. Et donc Poutine, bien évidemment, il veut aller peut-être plus loin. Pourquoi il n'est, c'est pas acquis ? Parce qu'il n'a pas suffisamment de force, il n'a pas suffisamment de matériel, il a des hommes qui ne sont pas motivés, il est obligé d'avoir déclaré la mobilisation, qui marche mal, qui crée énormément de problèmes à l'intérieur du pays. D'ailleurs, on ne comprend même pas pourquoi il l'a lancé, parce que si les référendums sont arrivés, normalement, si ces territoires font partie de la Russie, il a le droit, à partir de maintenant, enfin, quand le processus sera terminé, parce qu'il n'est pas terminé. Il y a Douma et le Conseil de fédération qui doivent entériner encore cette décision et Poutine signer la loi constitutionnelle. Mais en fait, si les référendums étaient terminés, il aurait pu tout simplement mettre les forces régulières, y compris les conscrits, sur ces territoires. Et donc, pas de mobilisation. Pourquoi elle l'a fait ? Donc, en fait, c'est une pagaille. Et bien évidemment, c'est plutôt...
Donc c'est un aveu de faiblesse, selon
vous. C'est un aveu de faiblesse.
Aveu de faiblesse, selon vous, Pierre Gentillet ?
Je ne sais pas. Alors, c'est intéressant, c'est-à-dire que je vais répondre à votre question en rebondant sur le propos de Philippe Guibert. C'est-à-dire que, pour la première fois, je suis d'accord, Vladimir Poutine fait de la communication. Là où, justement, celui qui gagnait la bataille de la communication et qui perdait sur le terrain, c'est Zelensky. Et aujourd'hui, on voit l'inverse qui se produit. C'est-à-dire qu'il y a une contre-offensive ukrainienne, alors qui semble-t-il une patine depuis quelques jours, mais qui a eu des résultats manifestement importants, puisque l'Ukraine a repris une partie importante de son territoire, enfin, une partie plus importante que tout ce qu'elle avait repris auparavant par les petites contre-offensives. Et justement, c'est ça qui est intéressant, c'est que là, Vladimir Poutine arrive sur de la communication et arrive avec ses référendums. Le but de ces référendums, il est clair, c'est de dire maintenant, ici, c'est la Russie. Si vous venez, là, vous attaquez le territoire russe. Notez bien une chose, c'est que pendant tout le conflit, il y a une part nord du territoire ukrainien qui est continue avec la Russie. Jamais les Ukrainiens n'ont dépassé la frontière entre l'Ukraine et la Russie. Là, maintenant, ça va être... Il n'y a jamais eu d'offensive. Non, si, ils ont bombardé.
Des attaques, les amis.
D'accord.
Il n'y a pas eu de militaires. Il a raison, Pierre Gentil. Il n'y a pas eu des dizaines ou des centaines de bataillons qui sont arrivés dans la Russie.
Vous allez voir. Vous allez voir.
D'incursion, mais il y a eu des bombardements du sol russe.
C'est pas ce que j'ai dit.
Des bombardements.
Moi, je parle de pénétration. En l'occurrence, oui, bien sûr. Mais en l'occurrence, il n'y a pas une pénétration.
Vous n'avez pas vu des chars ukrainiens sur le territoire russe.
On est sur des territoires. On est sur quatre territoires qui, en plus, ne sont pas complètement contrôlés par la Russie. C'est ça, la difficulté. C'est que non seulement ces référendums interviennent dans un contexte de guerre, donc sur un plan juridique, ils sont absolument inqualifiables, ce n'est pas un débat. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est ici que l'enjeu, il est politique et militaire pour Vladimir Poutine. Et on arrive à des extrémités que nous aurions pu éviter. Parce que je vous rappelle que quand même, cette histoire, elle dure depuis des années.
On y viendra.
Ici, l'objectif pour Poutine, c'est clair, ce n'est pas juridique. Enfin, moi, j'y crois pas, personne n'y croit. L'objectif, c'est politique. C'est politique et militaire, pour dire maintenant c'est la Russie.
Maintenant c'est la Russie. On va être avec Bruno Clermont, le général qui est avec nous en direct. Et ensuite, Karima, je vous demanderai justement votre ressenti, comment vous avez pu décrypter, décoder ces deux discours, parce qu'il y en a eu deux quand même, de Vladimir Poutine. Mon général, merci d'être avec nous, Bruno Clermont, général du corps aérien et également consultant CNews. Le général que vous êtes, le militaire que vous êtes, comment il décrit le discours aujourd'hui de Vladimir Poutine ? Est-ce que c'est le discours d'un chef de l'armée qui est en faiblesse, en difficulté sur le terrain, ou au contraire, c'est quelqu'un qui vient d'affirmer sa toute-puissance sur ces quatre territoires ukrainiens ?
Je crois que ce qui a été dit est tout à fait juste. Hein. C'est vraiment un exercice de communication stratégique. Il veut reprendre l'initiative, en particulier au moment où la mobilisation ne semble pas être très populaire dans l'ensemble de la Russie. Donc, il a, de ce point de vue-là, il a réussi son exercice. Un exercice en deux temps, d'abord devant un panel choisi de responsables politiques dans lequel il a délivré un message extrêmement, une véritable diatribe anti-occidentale qui finalement révèle le vrai visage de Poutine. Et un deuxième exercice tourné vers la population pour dire « on va gagner ». Je précise qu'il dit « on va gagner ». Il n'a pas dit « on a gagné ». Donc effectivement, la vérité, ce n'est pas la vérité de la communication. c'est la vérité du terrain. Et sur le terrain, les forces russes continuent à reculer par rapport à la contre-offensive ukrainienne qui gagne du terrain, surtout dans le nord. Il faut reconnaître que les Russes ont finalement abandonné le nord à présent, mais là, de manière plus inquiétante, qui est en train de pénétrer à l'intérieur de l'oblast de Lugansk.
Revoyons la carte d'ailleurs, ça peut être intéressant pendant que vous parlez. Continuez, mon général.
Oui, sur la ville de Liman, hein, qui est la porte à la fois vers Donetsk et vers Lysychansk, c'est-à-dire que les Ukrainiens reprennent un territoire qui a été conquis très difficilement par la Russie. Donc, au moment où cette annexion est prononcée, elle est annoncée dans une sorte de catastrophe, d'une course contre la montre. Poutine n'a plus l'initiative sur le terrain, il essaie de la reprendre dans le domaine politique, mais avec toutes les limites qu'on imagine facilement.
Vous restez bien évidemment avec nous, mon général, parce qu'on va revenir sur la menace nucléaire, sur le risque de troisième guerre mondiale. Qu'est-ce qui va se passer? Parce que moi, je reviens sur la déclaration et le communiqué de l'Élysée. Karima, quand même, c'est intéressant de dire la France s'y oppose et se tient aux côtés de l'Ukraine pour faire face à l'agression de la Russie et recouvrer sa pleine souveraineté. C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron, finalement, soutient Volodymyr Zelensky et espère, si on doit faire la traduction, eh bien récupérer ces quatre territoires qui ont été annexés par Vladimir Poutine.
Oui, effectivement, on voit que ça se joue du côté des Américains aussi qui continuent à soutenir, bien sûr, Zelensky, et on voit à coups de milliards aussi, et c'est là que ça va jouer. Hein, s'il y a quelqu'un qui a bien les clés peut-être de la résolution de ce conflit, ça va se passer du côté des États-Unis. Alors, il y a ça, il y a bien sûr la France qui envoie aussi son message. Par ailleurs, moi, je reviens à cet exercice de communication parce qu'effectivement, si on regarde sur le terrain, la réalité n'est pas nécessairement très rose. Hein, c'est pas nécessairement très glorieux pour la Russie en ce moment. Alors, ce qu'a besoin présentement Poutine, c'est envoyer le message qu'il a fait des gains, qu'il a fait une victoire ou à tout le moins une apparence de victoire. Et pour moi, ce discours, écoutez, c'est digne la mise en scène, le propos, on est vraiment dans la logique propagandiste, si on veut. On est dans la désinformation totale. Oui, image de force, mais en même temps, qui y croit? Ça va faire plaisir à une partie, bien sûr, du peuple russe qui le soutient encore, mais c'est un message important qu'il envoie aussi au reste du monde, et je pense qu'on va y revenir aussi tout à l'heure sur la question du discours anti-occidental.
Bien sûr.
Mais c'est de dire, ben écoutez, votre modèle, ce n'est pas notre modèle. On a un autre modèle, on va l'imposer. C'est l'espèce de côté de la Russie impériale, la Russie éternelle. Hein? Donc, il revient avec ça en force. Il montre que c'est ce qu'il peut proposer. Et il envoie aussi le message, oui, aux Occidentaux, mais aussi à la Chine, aux pays africains. En Asie.
À l'Iran.
Donc, voilà, exactement. Donc, il envoie quand même ce message à travers le monde.
Arthur Muriot, on va faire un point parce que ça fait désormais plus de 7 mois que la guerre en Ukraine a débuté. Il ne parle pas de guerre, hein, Vladimir Poutine. Il parle d'opération spéciale, opération militaire spéciale. Est-ce qu'on arrive à faire un bilan humain? Et là aussi, il y a une guerre de communication entre l'Ukraine et la Russie.
Alors c'est un conflit en cours, donc le bilan il est encore complexe à établir. Alors côté ukrainien, le dernier rapport date du 15 août dernier, il concerne les civils. La source est le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, le HCR, et il dénombre 13 212 victimes civiles en Ukraine, avec 5 514 morts d'un côté et 7 698 blessés de l'autre. Mais attention, le bilan est sous-estimé. Rien que pour la ville de Mariupol, par exemple, eh bien le gouverneur de la région, il déplorait entre 20 000 et 22 000 décès au cours des combats. Du côté, toujours ukrainien, mais du côté des militaires, on aurait plus de 9000 soldats ukrainiens qui seraient décédés lors des opérations. Côté russe, là aussi, vigilance sur les sources. La CIA dénombre 15 000 soldats russes tués au combat et 45 000 autres blessés. Moscou, il ne donne aucun chiffre, mais il dément le bilan de la CIA. Mais il parle quand même de pertes importantes. En termes de dégâts matériels, maintenant, on a un nombre, 750 milliards de dollars. C'est l'estimation du premier ministre ukrainien. Il estime que c'est la somme nécessaire pour la reconstruction du pays. Et depuis aujourd'hui, et la déclaration de Vladimir Poutine, on a un bilan à retenir, un chiffre à retenir. C'est 1084 km². C'est le total des quatre régions annexées, donc Donetsk, Luhansk, Kherson et Zaporizhia. Ça représente 15% du territoire ukrainien et ça fait désormais partie.
Non, plus, plus que ça.
Alors allez-y.
Pourquoi 140 000.
C'est 15% du territoire, il y a à peu près 80 000 km².
Oui, oui. Bon, 80 000 km², effectivement, de toute façon, dans les chiffres, parfois, on peut s'y perdre un peu. Mais je veux qu'on écoute Louis de Ragnel, vous savez, c'est le chef du service politique d'Europe 1. Et c'était assez intéressant cet après-midi, il disait voilà, c'est le signe que Vladimir Poutine n'a plus de limites. On écoute.
Vladimir Poutine peut basculer l'opération, ce qu'il appelle l'opération militaire spéciale, à tout moment en guerre, parce qu'il va considérer, à partir de ce soir, toute tentative de la part de l'armée ukrainienne de reconquérir ces quatre territoires comme une déclaration de guerre à la Russie. C'est ça qui est extrêmement important. Qui dit déclaration de guerre à la Russie dit riposte militaire, donc entrée en guerre officielle de la Russie dans le conflit ukrainien. Donc maintenant, Vladimir Poutine n'a plus aucune limite, plus aucune entrave réglementaire par rapport à la réglementation, la doctrine d'emploi de l'armée russe pour utiliser l'arme atomique.
Il n'en avait aucune avant. Hein. Ça veut dire de toute façon, la Russie, Poutine a accusé.
Il n'a pas utilisé, par exemple, l'arme nucléaire tactique.
Non.
C'est une limite, c'est une frontière. Il n'a finalement qu'attaqué l'Ukraine, si je peux me permettre.
J'en conviens par rapport à ça, bien évidemment. Mais de toute façon, la rhétorique russe, c'était l'Ukraine qui allait provoquer la guerre contre la Russie. C'était l'Occident qui menait la guerre contre la Russie. Et la Russie se défendait. Se défendait. En fait, il refusait toujours de dire « nous avons attaqué ». D'ailleurs, il y a encore le représentant de l'ambassade de Russie en France qui l'a confirmé tout à l'heure. Et donc, ça ne change rien. Mais en revanche, vous avez raison, c'est quelle arme utiliser pour défendre. Mmh. Et vous savez, il disait la même chose, vous avez oublié la cinquième région. La cinquième région, c'est la Crimée.
Mais la Crimée, elle est déjà annexée.
Elle était déjà annexée. Il disait, il y avait Medvedev qui a dit, si jamais, au grand jamais, les Ukrainiens touchaient à la Crimée, là, ça va être la réponse totale, abominable, etc. Les Ukrainiens ont touché la Crimée au moins à 6 reprises, au mois d'août et au mois de juillet. Il n'y a eu aucune réponse.
Joe Biden, le président américain, qui a également réagi cet après-midi, on ne se laissera pas intimider par Vladimir Poutine. Et ce discours que parfois certains commentateurs peuvent dire, voilà, les États-Unis ont un discours va-t-en-guerre. C'est eux qui parfois alimentent, mettent de l'huile sur le feu. Est-ce qu'ils ont raison ou non? Vous allez me dire ça après avoir écouté Vladimir Poutine.
Joe Biden.
Vous savez, j'insiste, les alliés des USA ne seront pas intimidés par Poutine et ses menaces irréfléchies. Il ne nous fera pas peur. Nous ne serons pas intimidés. Les actes de Poutine montrent qu'il est à la peine. Il nous présente des référendums factices, sans valeur. Il en a fait un grand spectacle d'unité où tout le monde se tenait par la main, mais les USA ne reconnaîtront jamais tout ça.
Pierre Gentil, on a quand même deux chefs d'État, deux puissances très importantes et qui nous font, avec deux chefs d'État qui nous font peur. L'un moralement, Vladimir Poutine, et l'autre même physiquement, Joe Biden.
Oui, je vois dans le sens dans lequel vous le donnez. Effectivement, il tranche beaucoup avec la forme d'un Vladimir Poutine qui pourtant n'est pas si âgé, plus âgé que lui. Enfin, il a peut-être 10 ans de différence.
8 ans.
Mais on a l'impression. Voilà, merci, effectivement. 8 ans, voilà, très bien.
Et chirurgical, vous le savez.
J'ai compris.
C'est l'arme nucléaire. C'est l'arme nucléaire tactique sur ce plateau.
Pas de problème. Non, mais c'est vrai qu'on a l'impression, on est en train de revoir une guerre froide. On est revenu dans une guerre froide. Voilà. On est dans une guerre froide, sauf qu'effectivement, c'est une guerre froide d'une autre intensité, qui est plus localisée, parce qu'il y a la question des alliés de la Russie qui va se poser, notamment en particulier de la Chine, qui était un petit peu sur le retrait, mais pas complètement non plus. Je veux dire, la Chine n'a pas décrété des sanctions, l'Inde n'a pas décrété des sanctions, donc la Russie n'est pas non plus complètement isolée du monde. Il faut quand même un moment arrêter. Maintenant, c'est vrai qu'on est dans une montée des tensions.
120 000 morts et blessés. C'est une guerre froide. Arrête,
s'il vous plaît, je vous ai pas interrompu. Si vous voulez, moi je vous interromps quand vous parlez, vous allez pas aimer. Donc on est en train de revenir progressivement dans une guerre froide. Et les Américains ont aussi leur responsabilité là-dedans. Parce que c'est un continent qui n'est pas le leur. Et nous sommes systématiquement à leur remorque. Là, nous sommes sur un état de fait, d'accord? Nous sommes dans une montée des tensions terrible qui peut aboutir, et le président russe l'a rappelé, jusqu'à l'usage de l'arme nucléaire. D'accord? Donc à un moment, il va falloir aussi que la France joue son rôle. Pas juste un rôle de remorque des Américains et de l'OTAN, mais un vrai rôle de neutralité, un rôle d'arbitre. Or, aujourd'hui, nous sommes quasiment co-belligérants dans cette affaire. Voilà.
La publicité, on revient dans un instant et on continue le débat. On ne parlera pas que de l'Ukraine et de la Russie, mais on va essayer quand même de décrypter, comprendre ce qu'il s'est dit du côté de Moscou et Vladimir Poutine. A tout de suite. 22h30 sur CNews, la suite de Soir Info Week-end. Pierre Gentil, Sergei Jernov, Philippe Guibert, Gérard Vespierre, Karima Brick et même Arthur Muriot sont autour de cette table, puisqu'on décrypte et on continue de voir les déclarations de Vladimir Poutine cet après-midi. En haut à gauche, on a le général Bruno Clermont, parce qu'il y a cette question qu'on doit se poser sur la menace d'une troisième guerre mondiale, d'un conflit qui pourrait s'étendre au-delà des frontières ukrainiennes. On parle de tout cela dans un instant, mais avant, on fait un point sur l'info.
L'électricité coûte 2 à 3 fois moins cher en France qu'ailleurs en Europe. C'est ce que révèle une étude menée par Elowatt. En moyenne, le prix du kilowattheure est de 21 centimes en France contre 41 en Italie et jusqu'à 56 en Allemagne. En cause, les deux boucliers tarifaires mis en place dans le pays. La Pologne distribue des comprimés anti-radiation, une mesure prise en réaction au combat autour de la centrale nucléaire ukrainienne de Zaporijjia. Les autorités affirment qu'il s'agit d'une mesure de routine en cas de menace potentielle. Elles affirment qu'il n'y a pour l'heure pas lieu de s'alarmer. Le portrait du roi Charles III pour les futures pièces britanniques a été dévoilé. Son profil apparaîtra sur les pièces de 5 livres sterling et de 50 pence. Ils entreront en circulation dans les prochains mois. Le portrait a été réalisé par l'artiste Martin Jennings.
Voilà pour le point sur l'information. Vous commencez à me connaître, je dis tout aux téléspectateurs. Et pendant la publicité, il y a eu un débat assez vif entre Gérard Vespierre, une sorte de guerre chaude entre Gérard Vespierre et Pierre Gentillet. Bon, la question, c'était de savoir si est-ce que c'est une guerre froide. C'était votre thèse, Pierre Gentillet, et à côté, Gérard Vespierre disait non, ce n'est pas une guerre froide, c'est une guerre chaude. Alors, est-ce que aujourd'hui, on peut parler de guerre froide concernant la Russie? Gérard Vespierre, vous avez 30 secondes.
Écoutez, à partir du moment, hélas, n'est-ce pas, où il y a autant de sang versé avec un pays qui est à la base de la guerre et de la guerre froide historique. Donc maintenant, on est à 120 000, 130 000 morts et blessés des deux côtés, ukrainiens et Russie, sans compter les civils, simplement les militaires. Donc à partir du moment où on a ce niveau de décès humain, je ne pense pas qu'on est dans le froid. On est dans la guerre réelle. Quand il y a des bombardements,
les chiffres que vous donnez, 120 000 morts.
Ils sont là, ils sont à main droite.
120 000.
Vous avez dit combien?
Pour la CIA, on est à.
Oui, mais la CIA, Arthur Muriot.
Comme ça, on sait quelles sont les sources.
La CIA dit 15 000 morts côté russe, dans les soldats seulement. Et pour les soldats seulement côté ukrainien, c'est Kiev qui l'annonce. Mais ça date d'un petit moment, c'est plus de 9 000.
Bon, écoutez, 120 000 du côté des militaires, vous êtes un peu marseillais.
Mort et blessé.
Déjà, vous changez un peu.
Depuis le début, 120 000 morts et blessés.
Les chiffres, on s'y perd un peu. Non, mais plus sérieusement.
En période de guerre, les chiffres, on sait très bien qu'ils peuvent être manipulés, qu'ils sont truqués. C'est la fin de la guerre. On saura véritablement.
Sergei Jernov.
Tu peux arbitrer?
Je ne suis pas sûr que vous soyez neutre.
On est dans la guerre hybride.
Ah, vous êtes.
On est bien d'accord.
Oui. C'est.
Vous êtes un jésuite.
C'est.
Merci.
Il y a une partie de la guerre.
Dans ce rapport de force contre l'Occident, il y a cette guerre économique. Les sanctions contre le régime russe ont affaibli le pays, mais l'Europe se retrouve en difficulté. On va voir avec Arthur Muriot justement quel impact ces sanctions ont eu sur l'économie russe.
Alors, elles ont un impact, mais pas aussi fort qu'attendu. Le Fonds monétaire international, il a haussé ses prévisions. Le PIB russe devrait se contracter de 6%. En avril, le FMI prévoyait 8,5% de contraction. Dans son rapport, il indique que les exportations de pétrole brut et de produits non énergétiques se maintiennent mieux qu'attendu. Et on apprend aussi que la demande intérieure et le marché du travail résistent mieux que prévu grâce à la maîtrise de l'effet des sanctions sur le secteur financier intérieur. Mais attention, c'est aussi une guerre d'information. Les statistiques économiques fournies par la Russie ne reflètent peut-être pas totalement la réalité. Des spécialistes questionnent leur véracité. Il y a tout de même une forte inflation en Russie, entre 15 et 20% dans les supermarchés russes. Le prix du sucre a augmenté de 50% et le prix des pâtes de 25%. Les principales sanctions de l'Europe se concentrent sur le gaz russe. Les Européens ont un objectif, ne plus acheter de gaz aux Russes. Mais les Russes, ils se sont tournés vers d'autres acheteurs. majeurs comme l'Inde ou la Chine. Et selon un think tank créé entre le 24 février et le 24 août, le revenu du pétrole, des produits pétroliers, du gaz et du charbon ont atteint 158 milliards d'euros. Ça fait environ 750 millions d'euros par jour en exportation énergétique qui reviennent dans la poche des Russes. Et c'est 100 millions de plus par jour par rapport à la période avant la guerre. Mais vigilance, hein, avec l'arrêt des livraisons de Nord Stream 1 et les 4 fuites en mer Baltique, les recettes du géant Gazprom devraient baisser.
Merci Arthur pour ces précisions. Dans le premier discours de Vladimir Poutine cet après-midi, il y a eu un temps fort. Et on avait l'impression que c'était aussi un meeting politique et qu'il ne s'adressait pas qu'au peuple russe, qu'il s'adressait à nous, Européens et Français. Et à un moment, il dit, voilà, le gouvernement, les gouvernements successifs, que ce soit en France, en Italie, vont aujourd'hui devoir expliquer qu'il va falloir un peu plus se couvrir parce qu'on va être en difficulté sur l'énergie et l'électricité, le chauffage, etc. Écoutez Vladimir Poutine.
Les Européens doivent convaincre aujourd'hui leurs citoyens de moins manger, de moins se laver, de se couvrir plus l'hiver. Et ceux qui se demandent pourquoi, on leur explique que ce sont des ennemis, des extrémistes, des radicaux. Et on fait porter la culpabilité à la Russie, qui est la cause, soi-disant, de tous les malheurs. Mais ce que j'aimerais souligner, c'est qu'il y a tout pour penser que l'Occident n'est pas prêt à avoir une approche constructive pour régler la crise énergétique et alimentaire qui est apparue de leur faute et qui est le résultat de leur politique qui a commencé bien avant notre opération militaire spéciale.
Guibert, est-ce qu'on peut lui donner tort sur ce rapport de force et le paquet de sanctions économiques qui finalement touche plus les Français que les Russes ?
Alors d'abord, est-ce que ça touche plus les Français que les Russes ? C'est quand même à démontrer, parce qu'avec vos chiffres, je crois que les Russes sont quand même bien touchés. C'est d'un grand cynisme, hein, ce qu'il raconte Vladimir Poutine. Donc parce qu'il nous explique que c'est parce qu'on a été très méchants qu'il était obligé d'augmenter et de rationner ses livraisons de gaz et de jouer avec l'arme énergétique. C'est d'un cynisme considérable. Après, on peut avoir un vrai débat. C'est-à-dire que autant l'aide militaire à l'Ukraine où l'aide financière à l'Ukraine me paraît extrêmement légitime et me paraît incontestable, autant les sanctions économiques, leur efficacité reste à démontrer, pas simplement en Russie, mais dans plein de pays qui ont été sanctionnés économiquement, l'efficacité durable... L'Iran et puis d'autres pays...
La Corée...
Pays, exactement.
Ça va très bien. Mais...
L'efficacité à terme des sanctions économiques est largement discutable. Et parfois, nous en sommes effectivement autant victimes des sanctions qu'on décide que ceux à qui elles sont destinées. Donc je trouve qu'il y a un vrai débat sur les sanctions économiques.
Débat sur les sanctions économiques, Sergueï Girnov. Je rappelle que vous êtes ancien espion du KGB.
Et là, je vais ressortir aussi mon diplôme, mon premier diplôme d'économiste international, donc GIMO, l'Institut d'État des Relations internationales auprès du ministère des Affaires étrangères. Et je vais vous dire quand même que la Russie se porte très mal par rapport à ses fonctions. Et par rapport à la France, c'est beaucoup plus parce que je vous rappelle que, par exemple, on parle de l'inflation en France, mais l'inflation en France est 6%. En Russie, c'est 50%. Sauf que ce chiffre de 50%, vous savez que tous les chiffres actuellement économiques sont interdits, sont secrets en État russe. Il n'y a plus rien qui est publié depuis 3 mois. Interdit. Tout est secret d'État. En revanche, le chiffre que je vais vous donner, depuis le mois de juillet, il y a le budget de l'État russe qui, depuis... la première fois depuis 22 ans, est déficitaire. Et actuellement, la Douma est en train de voter le budget pour 3 ans. Il programme ce budget déficitaire pour 3 ans à venir. Voilà. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, le gaz russe. Bien évidemment, on dit, oui, Poutine, il peut trouver d'autres issues, par exemple en Chine et en Inde. Déjà, en Inde, il n'exporte pas le gaz, il exporte le pétrole. Le gaz, il exporte en Chine. Mais sauf qu'il exportait 150 milliards de mètres cubes en Europe et la Chine lui prend 8 milliards de mètres cubes. Ça veut dire que vous ne pouvez pas remplacer par 8 milliards 155 milliards.
On écoute à présent Pierre Lellouche, qui est un ancien ministre qui est souvent avec vous, Philippe Guibert dans La Belle Équipe, qui parlait de la fin de l'hégémonie européenne. C'était une des déclarations, un des temps forts de ce discours de Vladimir Poutine qui dit voilà, c'est la fin de l'hégémonie occidentale et donc européenne. On l'écoute, Pierre Lellouche. Et Karima, vous allez réagir à ça.
Il s'est porté comme le porte-parole du reste du monde non aligné contre l'Amérique. Et il dit cette phrase très importante, la fin de, l'hégémonie occidentale est irréversible. Donc il prépare le prochain monde, et ce prochain monde, c'est la Russie et ses alliés. Et à l'intérieur de ça, la défense de la Russie est une affaire existentielle contre un Occident dominant qui n'a qu'un objectif, c'est détruire et piller la Russie.
Karim Abrik, on est au-delà du conflit entre deux frères, la Russie et l'Ukraine. On voit que c'est presque une guerre civilisationnelle entre l'Occident et la Russie.
C'en est une.
Ben absolument. Et il y a ce message-là qu'il envoie. Il le dit clairement. Et il y a une phrase aussi qu'il a dit. C'est pas mal. Il a dit « La vérité, c'est la force ». Et ça m'a fait un peu rire parce que sa force, on s'entend que c'est pas la vérité dans le cas de Vladimir Poutine. Mais quand même. Donc, effectivement, sur ce discours, et j'ai trouvé intéressant, il joue sur deux fronts aussi. Il joue sur le sentiment qu'on peut avoir anti-américain, qu'on peut retrouver un peu partout à travers le monde. Et le discours aussi sur deux fronts, là encore. D'un côté, le discours un peu qu'on retrouve du côté de l'extrême-gauche, racialiste, tout ça. Donc, il va aller chercher en disant « l'Occident, vous savez, est colonialiste ». Et il se pose en victime aussi, en disant « nous sommes les victimes, regardez avec les sanctions, avec quoi que ce soit, la Russie et l'Occident veulent notre anéantissement ». Donc, ça lui donne même des munitions, pardonnez-moi le mauvais jeu de mots, mais ça lui donne des munitions aussi pour rebondir et dire « écoutez, on veut notre anéantissement ». Nous n'avons pas le choix de réagir. Donc, d'un côté, il joue là-dessus.
On est les oppressés face à l'oppresseur occidental.
Exactement, exactement. Et l'autre côté, c'est sur le côté de la droite, qui va aller chercher aussi, encore une fois, ce sentiment. Donc, il mêle les cartes un peu partout, même dans le discours, en disant, on sait que, bon, du côté de la Russie, de Poutine, à tout le moins, le discours qu'il avait un peu sur, par exemple, il en a contre le lobby, qu'il dit, là, je parle un peu en ces mots, lobby LGBTQ, on sait ses positions sur ce sujet, sur la famille, sur ces choses-là. Ouais. Alors, il joue vraiment là-dessus, il brouille les cartes et il joue sur ce sentiment anti-américain.
Mais on entendra, parce qu'on va revenir évidemment sur les propos après 23h, mais il revient sur l'esprit russe, sur l'histoire, les codes, les mœurs, donc l'esprit très nationaliste qu'on Absolument, peut retrouver, oui. Cette résurgence en Europe. Autre question d'un Français, tiens, est-ce que la France peut intervenir dans ce conflit? Et c'est le général Bruno Caramont qui va répondre. On l'écoute.
Bonjour, je m'appelle Reda, je suis en première année de droit et ma question c'est est-ce que la France ou l'Europe pourrait intervenir dans le conflit ukraino-russe plus qu'aujourd'hui? Ça veut dire qu'on ne soit pas que dans les renforts, mais en fait s'avancer plus que ça.
Bruno Clermont, est-ce que la France, est-ce que l'Europe, avec cette annexion et la transformation peut-être de ce conflit, pourrait intervenir dans les mois prochains?
Écoutez, ce n'est pas du tout à l'ordre du jour, pas plus de la part de la France que des États-Unis, que de l'OTAN, et d'ailleurs pas plus que de la Russie. Si on regarde ce qui se passe à la frontière entre l'OTAN et la Russie, la Biélorussie, tout se passe très bien. Il n'y a aucune tentative de mettre de la pression des deux côtés. Les Américains et l'OTAN ne veulent pas faire la guerre directement contre la Russie, et Vladimir Poutine non plus, parce qu'il sait qu'il perdrait cette guerre. Donc, pour l'instant, le danger est totalement écarté. C'est un soutien indirect que nous fournissons aux Ukrainiens, un soutien financier, humanitaire et en armement qui est d'une ampleur considérable, mais aucun des deux camps, en quelque sorte, occidental ou russe, n'a d'intérêt à ce stade à ce que le conflit dégénère. Et c'est d'ailleurs l'objectif qui rend compliqué cet exercice, c'est que personne ne veut que ça se termine en Troisième Guerre mondiale. Ça, il faut être très clair sur ce sujet-là. Et ceux qui le veulent le moins, ce sont les Américains. Ils ne sont absolument pas prêts ni absolument pas intéressés à faire une guerre directe contre la Russie. Enfin, tous les y opposent actuellement. Donc le risque est très faible à ce stade. J'ajoute que Poutine, dans son discours, a dit quand même quelque chose de très important, c'est qu'il a reconnu que les objectifs militaires qui étaient les siens, c'est-à-dire le fait qu'il contrôlait en gros les 120 000 ou 90 000 km², dont une partie incomplète du Donbass, pourrait lui suffire. Donc il est prêt à négocier sur la base de ce territoire conquis, qui ne comprend ni Kharkiv, ni Odessa, ni Mykolaïev, ni l'accès à la mer Noire. Donc pour l'instant, on peut dire qu'il a vraiment, en tout cas pour le moment, par rapport au rapport de force, revu ses objectifs à la baisse.
Donc à la question de Reda, la France pourrait-elle intervenir? Vous dites non. Merci beaucoup mon général. Voilà ce qu'on pouvait dire dans cette première heure sur la Russie. On y reviendra bien évidemment à partir de 23h. Mais dans l'actualité également ce vendredi, la cavale d'Hassan Iqiyoussen aura donc duré un mois jour pour jour. Il a été arrêté en Belgique ce vendredi, à Mons. Le prédicateur Iqiyoussen, proche des frères musulmans, était sous le coup d'un mandat d'arrêt européen. Le 30 août, le Conseil d'État avait annulé donc la décision de suspendre l'expulsion d'Hassan Iqiyoussen. On va écouter Sandra Buisson qui revient sur les premiers éléments de cette arrestation et on en parle juste après.
L'imam Iqiyoussen a été arrêté en début d'après-midi près de Mons, en Belgique, chez une de ses connaissances, grâce au travail des enquêteurs de la police judiciaire française, appuyés par leurs homologues belges. Il était recherché dans le cadre d'une information judiciaire ouverte pour soustraction à l'exécution d'une mesure d'éloignement, une infraction qui lui fait encourir jusqu'à 3 ans de prison. Alors, via la coopération judiciaire, la justice belge devrait le remettre aux autorités françaises, mais cela peut prendre plusieurs jours, voire plusieurs semaines s'il actionne des voies de recours là-bas, ce qui est probable puisque son avocate conteste la validité du mandat d'arrêt européen qui le vise, puisque selon elle, il se fonde sur une infraction qui n'est pas constituée. Une fois remis à la France, il sera présenté au juge d'instruction qui mène les investigations. Il faut savoir que la procédure judiciaire prime sur la procédure administrative. Donc, premier scénario, l'information judiciaire se poursuit, il est éventuellement jugé et quand la peine éventuelle sera purgé, il pourra être expulsé. Autre possibilité, quand il est présenté au juge d'instruction en France, le magistrat peut prononcer un non-lieu. Donc à ce moment-là, la voie judiciaire est éteinte et l'arrêté d'expulsion peut alors être exécuté. L'imam serait alors placé en centre de rétention administrative, le temps de discussion diplomatique avec le Maroc pour tenter de rétablir le fameux laissez-passer consulaire indispensable pour le renvoyer dans ce pays.
Depuis la décision du Conseil d'État, Hassan Iqiyoussen est hors la loi, puisque évidemment il n'avait pas respecté ses conditions. On est bien loin de la fin de l'affaire Iqiyoussen, Pierre Gentier.
Il semblerait effectivement, c'est-à-dire que vous avez bien compris que l'expulsion ne va pas avoir lieu tout de suite. C'est-à-dire que déjà il va falloir qu'il revienne en France. Dans un premier temps, il y a un recours qui a été déposé par son avocat, mais on va revoir le même cirque, pardonnez-moi l'expression, enfin, le même circuit qu'on a eu, parce que c'était quand même un cirque, c'était un feuilleton, qu'on a eu en France. C'est-à-dire un recours devant, je ne suis pas un spécialiste du droit belge, mais je pense qu'il y a les mêmes types d'ordres avec toujours un appel, un tribunal administratif qui va se prononcer sur cette expulsion, et puis après, un recours possible en appel. Mmh. Et il va falloir laisser ce temps, et ça va prendre peut-être quelques semaines, quelques mois.
Vous parliez...
Donc, il y a ce nouvel épisode, effectivement, judiciaire, ça va nous paraître comme un doublon vu de France.
Vous parliez de l'avocate de l'imam Hassan Iqiyoussen, Pierre Gentillet. Je rappelle ses propos le 2 septembre dernier. Elle dénonçait une forme de chasse à l'homme, une traque, une chasse aux musulmans. Voilà ce que disait l'avocate de Hassan Iqiyoussen.
C'était des propos tout à fait scandaleux de faire cet amalgame entre un imam appartenant aux frères musulmans ayant tenu des propos sexistes, antisémites et autres joyeusetés et l'ensemble des musulmans. Enfin, c'était honteux comme amalgame. Moi, je ne sais pas, mais j'entends ce que vous dites sur les recours et les procédures et vous les connaissez bien mieux que moi, donc je vous crois sur parole. En même temps, je trouve qu'on nous avait annoncé que cet imam faisait un peu, entre guillemets, la nique à la France, qu'il allait s'exprimer, que ça allait devenir, qu'il allait défier le pays. Là, je constate qu'on ne l'a pas entendu depuis un mois et qu'il a fini par être attrapé néanmoins. Mmh. Et que la coopération entre la France, là je parle politique, la coopération entre la France et la Belgique me semble quand même assez solide, en particulier dans ce domaine. Donc je crois qu'il a sûrement des voies de recours qui lui permettront de gagner du temps. Mais enfin, je crois que là, normal, il est, si j'ose dire, si vous me permettez, il est pris, quoi. Il a perdu.
On va écouter Claude
Moniquet. Il a perdu la partie.
On va écouter Claude Moniquet, qui est spécialiste, évidemment, des questions de sécurité en Belgique et un de nos consultants. Il parle de Mons parce que, en fait, Mons, c'est vraiment quasiment à la frontière française et c'est là où il a été arrêté. Et il nous explique que Mons n'est pas connu comme un centre, une ville où il y a un fort terreau islamiste. Écoutez.
Des islamistes, il y en a comme en France, on en trouve partout et parfois dans des tout petits villages. Mais en l'occurrence, non. Mons n'est pas connu comme étant un centre de l'islam radical et de l'islamisme. Contrairement à Molenbeek, dont on a évidemment beaucoup parlé pendant, au moment des attentats de 2015, ou à une ville comme Verviers, où il y a de gros centres des frères musulmans. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que Iquissen, qui avait des contacts avec Verviers, a évité cette ville, où il savait qu'on le rechercherait peut-être en priorité. Mons, c'est beaucoup plus calme. Donc on peut penser qu'il se cachait soit chez des gens qui sont son proches, des gens de sa famille ou des amis, soit chez des gens qui partagent ses idées, mais qui n'appartiennent pas à un groupe très structuré.
L'affaire Iquissen, Karim Mabrik, c'était l'affaire d'État de cet été, en quelque sorte, pour ne pas citer l'autre. Et aujourd'hui, on commence, même si ça va être long, la procédure est encore longue, on commence à y voir un peu le bout. Hein.
Je ne sais pas si on va voir le bout, en fait, parce qu'on se dit plutôt que ça risque de s'emballer dans des dédales judiciaires, des délais, des recours, etc. Donc moi, je ne suis pas sûre que je vois le bout de cette histoire. Au contraire, je pense que je me dis qu'on va peut-être avoir effectivement le chapitre 2. Par ailleurs, cette histoire, ce que ça nous montrait, c'est qu'il y avait une attente, je pense, de la population, des citoyens, des Français, en disant est-ce que le gouvernement peut enfin sortir de l'impuissance? Écoutez, on parle de quelqu'un quand même qu'on prêtait, là, donc qu'il était reproché des propos quand même xénophobes, homophobes, misogynes, antisémites, etc. Donc, il y avait beaucoup de choses qui lui étaient reprochées. Il y avait cette attente, ce devoir presque de dire, on fait quelque chose avec la justice et finalement, ça devient une espèce de vaudeville et on peut pas se laisser...
Mais vous avez raison.
Juridiquement, vous avez raison, mais politiquement, je trouve qu'il a perdu quand même. Je veux dire, il peut faire durer le plaisir, enfin, ou les procédures. Mais il n'empêche qu'il s'est fait attraper.
Mais il a perdu.
Il n'a pas réussi à échapper.
Il a perdu. Mais rappelez-vous, Pierre Gentillet, on était ensemble lorsqu'on avait couvert ensemble la décision du tribunal administratif.
Oui, qui dans un premier temps avait été négative. Hein.
Non, ouais, le tribunal administratif avait dit...
Pour Darmanin.
Le tribunal... Le tribunal administratif avait dit OK pour l'expulsion. Ensuite, la cour d'appel avait dit non, pas d'expulsion, on suspend.
Et à ce moment-là. On ne peut pas improviser dans ce genre de situation.
Et on avait eu un mois de feuilleton et ça avait retardé. Mais en même temps, c'est logique, tout le monde a le droit à un appel. Tout le monde a le droit à un appel.
Mais est-ce que la décision était logique? C'était la question qu'on s'était posée. En revanche, Philippe Guibert, et là c'est très important, c'est que maintenant il va falloir que, si on va au bout de la chaîne, c'est que le Maroc dise oui. On accepte d'accueillir Hassan Iquissen, alors qu'aujourd'hui, ils n'en veulent plus.
Oui, mais c'est-à-dire que nos relations avec le Maroc ne sont pas complètement indépendantes de nos relations avec l'Algérie. L'Algérie et le Maroc étant eux-mêmes en situation de forte hostilité, rivalité. Et que le voyage du président Macron en Algérie, qui a été un succès diplomatique, a peut-être pas été très bien vécu du côté du Maroc, du royaume marocain. Et donc, que peut-être qu'on nous le fait payer aussi un petit peu. Enfin, c'est une hypothèse au moins qu'on peut émettre avec un bon pourcentage de probabilité. Donc, il va falloir renouer des liens avec le royaume marocain. Il y a beaucoup d'enjeux avec le Maroc. Il y a beaucoup d'enjeux dans la discussion et dans la négociation. Est-ce que le royaume voudra donner un camouflage à la France en refusant d'accueillir cette image? Ça me paraît difficile qu'ils aillent jusque-là, mais eux aussi peuvent faire durer le plaisir et négocier fortement.
C'est une arme diplomatique.
C'est une arme de négociation, d'autant plus que Slimane n'avait pas eu des mots toujours très aimables, je crois, pour le roi du Maroc.
Et c'est peut-être pour ça aussi qu'il essayait de s'échapper. Voilà ce qu'on pouvait dire sur l'imam Hassan Iquissen. Dans exactement 5 minutes, on revient et on va parler de ce double discours de Vladimir Poutine. On redécrypte tout ce qui a pu être dit, vu, entendu autour du conflit russo-ukrainien. Ce qui va être intéressant parce qu'on va être avec un spécialiste de droit international, maître de conférence en droit international. Je lui ai demandé, mais attendez, Vladimir Poutine dit on annexe. Donc on a récupéré 4 territoires. Sauf que tous les pays occidentaux ne reconnaissent pas cette annexion. Ouais. Donc en droit, qu'est-ce qui va se passer? Moi, pour l'instant, je ne peux pas... Comment?
C'est nul.
C'est nul. Vous dites que ma question, elle est nulle?
Non,
mais je plaisante, j'ai bien compris. Je plaisante.
Les Nations Unies, non plus.
Bon, on va lui poser la question dans un instant. On remercie Arthur Muriot et on se retrouve dans une minute. Il est quasiment 23h sur CNews. Merci à tous si vous nous rejoignez pour la deuxième partie de Soir Info Week-end. À la une, ce vendredi, Vladimir Poutine a officialisé l'annexion des quatre territoires au sud de l'Ukraine. Une violation du droit international, juge Emmanuel Macron, territoire annexé mais pas reconnu. Ça change quoi? On sera en direct avec Éric Pommès, maître de conférence en droit international, qui va nous expliquer ce que représentent donc ces territoires annexés. Dans son premier discours, Vladimir Poutine a pointé la fin de l'hégémonie occidentale, appelant au sursaut nationaliste du peuple russe, attaché à son histoire, ses valeurs. Pourquoi Vladimir Poutine se permet d'attaquer l'Ukraine depuis 7 mois? Est-ce le symptôme d'une Europe faible? On en parle dans cette édition. Et puis, dans l'actualité également, le préfet de Montpellier, au cœur d'une polémique sur les étrangers SDF et délinquants. Ils ne sont pas les bienvenus, a-t-il tweeté avant de supprimer sa déclaration. La gauche crie au scandale, la droite applaudit. Est-ce que ça vous choque? On y répond dans Soir Info Week-end. Le point sur l'info, justement.
Vladimir Poutine officialise l'annexion de quatre territoires d'Ukraine. Elle concerne les régions de Donetsk, Louhansk, Zaporizhia et Kherson. Dans son discours, le président russe a fustigé l'Occident. Il appelle Kiev à cesser les hostilités. Des annexions condamnées par Emmanuel Macron. Le président français parle, je cite, d'une violation grave du droit international. Il assure que la France se tient aux côtés de l'Ukraine pour faire face à l'agression de la Russie. Même son de cloche à Washington. Dans un communiqué, Joe Biden parle, comme son homologue français, d'une violation du droit international. Le président américain promet de nouvelles sanctions contre la Russie et ses potentiels soutiens. Il assure que Washington continuera d'aider l'Ukraine pour regagner le contrôle de son territoire. Et puis la Pologne distribue des comprimés anti-radiation, une mesure prise en réaction au combat autour de la centrale nucléaire ukrainienne de Zaporizhia. Les autorités affirment qu'il s'agit d'une mesure de routine en cas de menace potentielle. Elles affirment qu'il n'y a pour l'heure pas lieu de s'alarmer.
Voilà pour le point sur l'information. On est avec Pierre Gentillet, Sergueï Girnov, ancien espion du KGB, auteur de L'Engrenage, que veut Vladimir Poutine, Philippe Guibert, Gérard Vespierre, fondateur du site Le Monde Décrypté, Karim Abrik, autour de ce plateau jusqu'à minuit. Et on est également avec un spécialiste du droit international. Merci d'être avec nous, Éric Pommès. Vous êtes maître de conférence en droit international. On a besoin de comprendre ce soir ce que ça veut dire du côté russe. On a annexé quatre territoires ukrainiens et ces territoires, cette annexion, n'a pas été validée, acceptée par les Occidentaux. Donc vous allez nous expliquer cela dans un instant, mais avant, on fait un récap avec Michael Dos Santos, les temps forts de cette journée historique, selon Vladimir Poutine, à savoir l'annexion des quatre régions d'Ukraine.
Добро пожаловать домой.
Bienvenue à la maison, voilà comment Vladimir Poutine a accueilli les territoires annexés. Des régions ukrainiennes, selon la communauté internationale, russes dans le cœur, d'après le chef de l'État.
On a essayé de piétiner leur esprit historique, de détruire leur tradition, de leur interdire de parler leur langue maternelle, d'interdire leur culture.
Lors de son discours, Vladimir Poutine a également évoqué le conflit armé. L'occasion pour lui d'envoyer un message à ses soldats avec le soutien du public.
Faites une grande inspiration et lorsque je le dirai, 1, 2, 3, hurra! La victoire, et la victoire nous appartiendra.
Quelques heures auparavant, Vladimir Poutine avait officialisé l'annexion de Donetsk, Lugansk, Kherson et Zaporizhia en présence des dirigeants séparatistes de ces régions.
Nous défendrons nos terres par tous les moyens et les forces dont nous disposons. Nous ferons tout ce qui est possible pour assurer la vie et la sécurité de nos habitants.
Depuis le Kremlin, Vladimir Poutine a également appelé le régime de Kiev à cesser la guerre, à revenir à la table des négociations, sans oublier de s'en prendre à ses soutiens occidentaux.
La fin de l'hégémonie occidentale est irréversible.
L'Occident, responsable également de la crise énergétique et alimentaire, selon le président russe.
Éric Pommès, bonsoir. Je rappelle que vous êtes maître de conférence en droit international. On a besoin de vous ce soir, puisque Vladimir Poutine annonce avoir annexé quatre territoires ukrainiens au sud de l'Ukraine, mais ces territoires annexés ne sont pas reconnus par les États-Unis ou encore par la France et même par l'Italie. Donc juridiquement, qu'est-ce que ça représente? Est-ce que ces territoires sont ce vendredi russes?
Bonsoir, d'abord merci de me recevoir.
Donc votre question est excellente. Alors je vais faire une réponse qui est ce que vous attendez, c'est-à-dire ni politique, ni géopolitique, mais juridique. Et en d'autres termes, est-ce que les annexions qui ont été officialisées par Vladimir Poutine dans son discours aujourd'hui sont licites au regard du droit international ? Je crois que la réponse est claire au regard du droit international. Ces annexions sont illicites. Elles sont illicites puisque l'annexion n'est plus un moyen d'acquérir du territoire depuis l'entrée en vigueur de la Charte des Nations Unies. Les grands principes du droit international, hein, que ce soit l'intégrité territoriale ou l'interdiction de l'usage de la force, montrent très bien que ces annexions sont illicites. Et je dirais même, Vladimir Poutine et la Russie ont signé des traités avec l'Ukraine, qu'on songe au mémorandum de Budapest de 1994 ou de l'accord sur les frontières du 29 janvier 2003 qui prévoyait justement le respect de l'intégrité de l'Ukraine. Donc je crois que la réponse est assez claire. Ces territoires restent ukrainiens au regard du droit international encore ce soir.
Et votre réponse est claire. Et également, vous restez avec nous, bien évidemment, Bruno, Éric Pomès, pardonnez-moi. On va écouter Alexandre. Vous savez que depuis le début de l'émission, on donne la parole donc à nos téléspectateurs, aux Français qui sont sur le terrain. Et là, c'est Alexandre qui pose une question très intéressante, justement en lien avec ces annexions.
Bonjour, je m'appelle Alexandre, j'ai 19 ans et je voulais savoir si le référendum était arrangé ou s'il était réellement démocratique.
Arrangé ou démocratique, Gérard Robespierre?
Oui. Oh.
Ben, non, mais il pose la question. Alors,
si on doit trancher cette interrogation terrible, bien sûr que c'est arrangé. C'est arrangé d'abord parce que, comme on l'a évoqué au tout début de l'émission, les territoires ne sont pas respectés puisque la Russie n'est pas présente dans la totalité de Zaporijjia. La Russie n'est pas présente dans la totalité de Donetsk. Donc, deuxièmement, quand il y a des élections, il y a des listes électorales, n'est-ce pas?
Oui.
Et donc, là où sont les listes électorales, à partir du moment où vous avez 20, 30, 40% de la population qui est partie. Mmh. Donc, à aucun moment, on va dire, tiens, il y a tant d'abstention, etc. Non. Voilà, on ignore le béaba d'un scrutin qui est de se baser donc, sur une liste électorale. On ne respecte pas le territoire, on ne se base pas sur la liste électorale. Donc, effectivement, c'est quelque chose qui n'est absolument irrecevable, d'autant plus qu'on a déjà l'exemple de la Crimée. Mmh. L'annexion de la Crimée a été reconnue par 5 pays seulement.
Je veux qu'on revoie la carte, Sergueï Girnov, oui. Et vous allez me donner votre avis. Mais je vais me faire l'avocat du diable. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, Kherson, Zaporijjia, Donetsk et Lugansk sont historiquement ukrainiennes? Est-ce qu'elles sont 100% ukrainiennes ou ce sont des zones grises? Quand je dis des zones grises, c'est qu'il y a une partie de la population qui se sent plus russe qu'ukrainien.
Vous savez, ça, à cette question, c'est difficile de répondre, mais je dirais que parce que l'Ukraine faisait partie de l'Union soviétique. En Union soviétique, il n'y avait pas de frontières. Il y avait des républiques nationales qui portaient, si vous voulez, avec les nations titulaires, comme les Ukrainiens en Ukraine. Mais dans ces républiques, n'importe quel citoyen de l'Union soviétique avait le droit parfaitement de venir s'installer, etc. Ce qui fait qu'il y a tout un mélange. La Russie, déjà, n'est pas russe. Vous savez qu'en Russie, il y a 70% russes et il y a 30% de population qui représente 250 nationalités.
En Ukraine aussi, il y a des minorités, d'ailleurs.
Et donc, il y a les minorités aussi en Ukraine. En Ukraine, à peu près, on peut dire qu'actuellement, il y a à peu près la même chose, 70% ukrainiens, une vingtaine de pourcents de Russes, et puis après un mélange de Tatars, de Kalmyks, enfin tout un tas de peuplades. Mais en revanche, ce qui est vrai aussi, c'est que la question, par exemple, de langue, c'est une fausse question pour l'Ukraine. Parce que au Donbass, ils ont invoqué cette question pour se réclamer de la Russie. Et en fait, toute l'Ukraine parle russe. Mmh. De la même manière, parce que l'Ukraine appartenait à l'Union soviétique et la langue de l'Union soviétique était le russe. Donc on le parlait aussi en Ouzbékistan, Tadjikistan, Kazakhstan et l'Ukraine. Et donc, en fait, l'Ukraine est ukrainienne. Ses territoires sont ukrainiens. En revanche, il y a des minorités et on aurait pu éventuellement discuter avec ces minorités.
Le problème, c'est que dans ces oblasts, ce ne sont pas que des minorités.
ce sont des majorités pardon, ethniquement russes.
Oui, mais non, non, dans les quatre oblasts, dans les quatre oblasts que nous avons cités, il y a des majorités russophones. Mais ça, il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat là-dessus. Il n'y a pas de débat là-dessus. Et en l'occurrence, là, je vous écoutais tout à l'heure, parce qu'on a eu une aparté.
J'ai juste une question. Laissez-le répondre.
Quand on dit, si vous permettez, c'est, non mais, c'est une question.
Pas vous, Gérard.
Mais non, mais c'est vrai que souvent, on avance le référendum de 91. C'est vrai, en 1991, toute l'Union soviétique, justement, toute l'Ukraine a voulu sortir. Elle n'est pas sortie de la Russie, elle est sortie du cauchemar soviétique. Même la Russie, à la fin, en est sortie. Donc c'est plus complexe. Évidemment, il y a une réalité. Il y a une réalité russophone. Laissez terminer une phrase, s'il vous plaît. Ensuite, qu'il y ait derrière un référendum, qu'on en traduise des conséquences juridiques, il est évident que c'est référendum, mais s'il n'y a pas de débat, ils n'ont juridiquement pas de valeur. Mais vous savez, ça fait penser à une phrase de Pascal qui disait « N'ayant pu faire que le juste soit fort, on a fait que le fort soit juste ». Malheureusement, aujourd'hui, nous sommes devant le fait accompli. Et qu'allez-vous faire devant ce fait accompli ? Eh bien, nous allons peut-être arrêter d'être co-belligérants. Moi, je pense que si on doit avoir une position raisonnable dans cette affaire, c'est plutôt cette position-là que nous devrions avoir. Mais il faut reconnaître les réalités culturelles et russophones ici.
L'essai culturel s'est profondément brouillé en 30 ans, et je parle sous vos contrôles, messieurs. Le bilinguisme en Ukraine a progressé énormément. Et la meilleure c'est-à-dire que tout le monde parle et l'ukrainien, qui est une langue à part entière, et le russe. Et le clivage, s'il doit y avoir un clivage, il est surtout générationnel. C'est-à-dire que les Ukrainiens du sud et de l'est de l'Ukraine, qui ont appartenu, qui ont connu la période soviétique, ont un attachement culturel à la Russie, qui est plus important que les jeunes générations. La meilleure preuve, c'est Zelensky. Parce que Zelensky n'est pas originaire d'une des quatre régions là, qui vient d'être annexée.
Kriverig.
Si, ben voilà. Ouais. Parce que Zelensky, lui, parlait russe et est né dans une région qui était russophone. Et Zelensky a appris l'ukrainien au cours de sa... Enfin, a pratiqué l'ukrainien, il le connaissait, a pratiqué l'ukrainien au cours de sa campagne électorale. Et donc, Zelensky, qui lui, a 44 ans, se sent complètement ukrainien, bien qu'il ait fait une première partie de sa carrière artistique, de comédien, de comique, dans le monde russe. Donc c'est pour ça que cette idée de minorité, majorité russophone n'a plus de sens, cher Pierre.
Non, il n'est pas, en l'occurrence, je viens de vérifier, Volodymyr Zelensky n'est pas né dans un des quatre oblasts ici. Non, il est né dans l'oblast de Dnipropetrovsk.
Avançons, messieurs, et je veux qu'on écoute. Je veux qu'on écoute, s'il vous plaît. Je veux qu'on avance un tout petit peu et qu'on écoute.
C'est pas une des quatre régions dont on parle.
S'il vous plaît. Je vais couper les micros. Il n'y a pas de démocratie ici. C'est... Attention.
Il y a un chef. Hein.
Non, écoutons, s'il vous plaît, Vladimir Poutine sur voilà, la grandeur russe. C'est ce qu'il dit, il veut redonner la Grande Russie, exactement.
Aujourd'hui, nous nous battons pour notre liberté. Pour nous, pour la Russie, pour que le diktat, le despotisme soit révolu. Je suis convaincu que les pays et les peuples comprennent qu'une politique fondée sur l'exclusivité d'un acteur, sur la répression des autres, des cultures et des peuples, est criminel. Ce champ de bataille, aujourd'hui, c'est une bataille pour nous, pour notre peuple, pour la Grande Russie.
Je rejoins un peu ce que vous disiez, Karim Abrik, sur cette partie nationaliste du discours de Vladimir Poutine qui a voulu redonner corps aux valeurs, à l'histoire russe et qui embarque une partie de son peuple avec ça.
Absolument. Donc, le message est extrêmement important. Et puis, c'est un petit peu aussi pour dire, on va être capable d'aller jusqu'au bout. Et on est parti de cette, c'est quoi, cette mission spéciale en Ukraine. Et maintenant, on est rendu où? L'escalade va continuer, continuer, continuer. Moi, c'est un peu ça qui m'inquiète maintenant. C'est-à-dire jusqu'où il va se rendre avec ce discours? Je ne sais pas, mais en tout cas, il a l'air, en tout cas, d'être sur une espèce de lancée.
Semble inarrêtable. C'est un peu la sensation qu'on peut avoir.
Et par ailleurs, je voulais juste rajouter aussi sur la question, il y avait ce débat et l'Ukraine, puis les minorités, etc. Je pense quand même que quand on est... C'est facile pour les grandes puissances de nier le sentiment national, la fierté, la culture des petites nations. Et c'est un peu ce qu'on voit en ce moment en Russie à l'égard de l'Ukraine aussi.
Bien évidemment.
Il y a aussi ce point à souligner.
C'est important de
juste
le souligner.
Juste un petit argument, si vous me permettez. Par exemple, pour ces peuplades russophones, je suis d'accord. Par exemple, je suis d'accord qu'il pouvait y avoir des gens qui avaient le cœur envers la Russie. Poutine s'attendait à ce qu'il l'accueille avec les fleurs.
Oui, bien sûr.
Vous avez vu où les fleurs? À Kharkiv, à Mariupol, à Melitopol.
À Kherson.
À Kherson. Il n'y avait pas eu. Et aujourd'hui, vous savez, dans ce discours, Poutine a prononcé aussi une faute extrêmement grave politique et idéologique. En parlant de ce nationalisme russe, de la grandeur de la Russie, il a cité Ivan Iliïn. Vous savez qui est Ivan Iliïn?
Non, vous allez me l'expliquer.
Le philosophe. C'est un grand philosophe russe qui a été poursuivi par la Tchéka au début, après la Révolution. Donc il était obligé de quitter la Russie en 1924 et s'est installé à Berlin. Et il est resté à Berlin jusqu'à 1938. Et à 1933, quand après à Berlin, sont les nazis qui sont arrivés au pouvoir, il les a salués. Et donc, citer un philosophe russe qui a salué les nazis entre 1933 et 1938, elle a vécu 5 ans sous les nazis, avant de s'exporter en Suisse, où il est mort en 1954, en parlant de dénazification de l'Ukraine, il a fait fort quand même.
Il y en a qui citent Stéphane Bandera, vous voyez, il y en a qui font les choses de manière peut-être plus franche.
Éric Pomme,
attendez, juste un petit mot quand même, parce que je suis bien d'accord qu'effectivement, entre la réalité ethnique et le fait de parler russe, ça peut tout à fait être une différence. Mais pour autant, il ne faut pas oublier que c'est de là qu'est partie l'étincelle. Parce qu'en février 2014, vous allez laisser terminer une phrase, deux secondes, d'accord ? En février 2014, c'est là où l'étincelle s'est faite. C'est-à-dire que quand le pouvoir de Kiev, quand le gouvernement ukrainien a décidé de retirer le statut de langue officielle pour du russe en Ukraine... Comment voulez-vous que ces populations russophones réagissent? Évidemment, elles ont réagi avec hostilité. Donc, on peut comprendre aussi que ces populations aient une certaine hostilité. Je ne valide pas le référendum, et pour moi, ce référendum n'est pas valide sur le point de vue international. Mais il y a une réalité russophone en Ukraine que les Occidentaux ne veulent pas reconnaître, qu'ils balayent d'un revers de main, et nous allons revers la guerre.
Il y a 40% des gens qui font partie de les russophones.
Là, en revanche, je vous parle
quelque chose.
Je vous reconnais votre point. Je reconnais votre point, mais il y avait. Donc c'était il y a 8 ans.
Éric Pomès, je rappelle que vous êtes maître de conférence en droit international. Vous avez dit tout à l'heure, et vous avez vu, les échanges sont assez musclés autour de ce plateau. Mais moi, ce qui m'intéresse, vous avez dit, c'est très, très, très édifiant de dire cela, c'est-à-dire que finalement, cette annexion n'a juridiquement aucune valeur en droit international. Maintenant, moi, j'ai envie de savoir si... il y a des recours possibles, s'il y a des sanctions possibles. Que peut faire le droit international face à Vladimir Poutine? Et pardonnez-moi, j'ai l'impression que le droit international ne peut pas faire grand-chose.
Le droit international, c'est un instrument aux mains des États et des organisations internationales. Le droit international n'est pas une baguette magique qui règle les problèmes. C'est la volonté politique... Et les rapports de force qui règlent les problèmes. Ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, il y a un discours juridique aussi bien chez les Occidentaux que chez les Russes. Ce que je comprends des débats qu'il y a sur votre plateau, c'est qu'en réalité, le discours de Vladimir Poutine, il tourne autour du droit de l'autodétermination, c'est-à-dire de parler des minorités russes, de ces quatre oblasts qui sont annexés et d'en faire une interprétation très, très large. Donc, c'est-à-dire que du côté russe, on a renvoyé aux Occidentaux l'interprétation que nous avions nous-mêmes utilisée pour le Kosovo. Donc le droit international est utilisé de notre côté, du côté occidental. Nous utilisons le droit international pour remettre en cause ce discours russe, pour... montrer l'illicéité de ces comportements, mais en tant que tel, c'est-à-dire que la sanction dont vous parlez, je pense que vous parlez d'une sanction par un tribunal, parce qu'on ne parle pas des contre-mesures prises aussi bien par les Européens que par les Américains, puisque ça, elles sont prises, je ne sais même plus à combien.
Bien sûr. Mais c'est quand je disais le droit international ne fait pas peur, c'était un peu plus, j'allais un peu plus loin, c'est-à-dire est-ce que une cour pénale internationale fait peur à Vladimir Poutine? Et la réponse finalement, on l'a tous, c'est non. En voyant ce qu'il se passe en Ukraine. On avance un tout petit peu et je vous remercie, Éric Pomès. Je veux qu'on avance parce que sinon on va faire que de l'Ukraine et de la Russie.
Je voulais juste
ce soir.
Dire qu'avec le raisonnement de Pierre, il fallait garder l'Alsace-Lorraine à l'Allemagne. C'est la même problématique.
Ah bah oui,
et que le bilinguisme.
Mais vous m'avez pas entendu. Vous m'avez pas entendu. Vous m'avez pas entendu. J'ai pas dit que le référendum est valide.
C'est l'histoire de la langue.
J'ai simplement dit qu'il y a des faits culturels, il y a des réalités historiques, et que nous avons tendance à vouloir balayer ces réalités historiques.
Mais non, parce que moi, je n'ai jamais été interdit en Ukraine, contrairement à ce que
vous avez dit. Bien sûr que si, en 2014, c'est sorti des langues officielles.
Que la langue officielle de l'Ukraine soit le ukrainien est une chose.
On se perd un peu. Autre question. Éloi, qui vous pose une question à vous, spécialiste. Qui a saboté Nord Stream? Les gazoducs. Qui a saboté les... Bah, vous allez me le dire, on écoute Éloi. On va
dire les Russes sur ce plateau, c'est sûr.
Bonjour, moi c'est Éloi Pasquier, j'ai 19 ans et je me pose une question. Selon vous, qui est-ce qui a saboté le Nord Stream?
Gérard Vespierre. Qui? Donnez un nom.
Pour le moment, il n'y a pas de réponse qui satisfasse qui que ce soit.
Oui.
Parce que ça peut être effectivement les deux parties impliquées. Ce n'est pas forcément une présence physique, ça peut être aussi des activités de type cyber. N'oublions pas que des attaques cyber venant de Russie ont paralysé en États-Unis
ça tout un réseau. C'est probable, parce qu'on a retrouvé du TNT, etc. Il y avait
des TNT dans l'équivalent. Non.
Voilà, la magnitude des explosions a été mesurée respectivement à 2,3 et 2,1 sur l'échelle de Richter, soit probablement l'équivalent d'une charge explosive d'une centaine de kilos.
Parce qu'il y a du gaz, non? Il n'y a pas de gaz dans un gazoduc? Oui, voilà. Donc, s'il y a une surpression de gaz...
Vous n'avez pas de nom à nous donner.
Pas de nom, personne ne peut vous donner un nom pour
Le Vladimir moment. Poutine, il accuse.
La vérité sort de la bouche de Poutine à ce moment-là.
Ça, je vous pose une question, vous me dites, je ne sais pas.
Justement, c'est pas important nécessairement pour Poutine ici. C'est ce qu'il laisse croire et c'est ce qu'il nous laisse croire. Et peut-être, moi, la question que je me pose à ce moment-là, et on peut se questionner, c'est-à-dire s'il pointe du doigt les Anglo-Saxons en disant les Anglo-Saxons, non, c'est eux qui ont saboté. Et est-ce qu'il pourrait à ce moment-là lui-même commencer à saboter d'autres installations pour dire, écoutez,
On nous a attaqués, nous on attaque également. Sergueï Jernov, la question que je me pose.
Toujours dans le discours inverse, on est tous d'accord sur ce plateau.
Sergueï Jernov.
S'il accuse la gauche, c'est la droite. S'il accuse la droite, c'est la gauche. Donc s'il dit c'est les États-Unis, ça pourrait être.
Vladimir Poutine donc accuse les Anglo-Saxons et les États-Unis, s'il vous plaît. Mais la question que je me pose, puisque certains disent c'est la Russie qui a saboté ses propres gazoducs, quel serait l'intérêt de la Russie de saboter ses propres gazoducs alors qu'il pourrait tout simplement fermer le robinet?
Oui, effectivement, c'est une bonne question, mais la question, c'est éventuellement de se donner un casus belli pour attaquer d'autres intérêts. C'est ce que disait Karima, exactement. Et d'ailleurs, nous avons eu un cas, parce que Poutine, quand il est arrivé au pouvoir le 9 août 1999, pour semer un climat de terreur, il a organisé avec le FSB quatre explosions. Et d'ailleurs, ça a été prouvé parce que le FSB a été cueilli la main dans le sac. Et Felsinski et Litvinenko ont écrit un livre qui s'appelle « Le FSB fait sauter la Russie » avec tout un tas d'arguments.
Oui. Ça a été prouvé par un tribunal, ça?
Par le tribunal, non.
Oui.
Mais Litvinenko a été tué.
Vous allez nous dire bientôt que le 11 septembre, c'est les Américains qui ont fait sauter les tours aussi.
Mais Litvinenko a été tué.
Litvinenko
a été tué après ce livre.
Il y a des noms et des faits.
Je sais pas.
Il y a des noms et des faits.
Non, mais je note qu'il y a des bons complots, il y a des mauvais complots.
Non, il y a des bons et des faits.
En tout cas, Ariazan, mon cher Pierre, Ariazan, il y a les agents de FSB qui ont été cueillis par la police locale en train de miner un immeuble de 9 étages.
La publicité.
Ils ont été pris la main dans le sac.
On remercie Éric Pomès, maître de conférence en droit international, pour votre éclairage. N'hésitez pas, la prochaine fois, venez sur le plateau. C'est toujours plus intéressant et plus facile pour prendre la parole parce que vous avez vu, ils n'arrêtent pas de se couper entre eux. On n'y comprend plus rien. Je reçois des messages, le plateau est agité. C'est rare, franchement. On continuera. Moi, je veux savoir si le cessez-le-feu, parce qu'il y a quand même l'un des temps forts également, c'est Vladimir Poutine qui appelle au cessez-le-feu avec Kiev. Il dit, est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est jouable? Est-ce que c'est encore un coup de poker menteur? Et puis ensuite, on reviendra sur l'actualité française. On va parler du préfet de l'Hérault, on va parler des émeutes à Rennes et également la situation à Nantes. Voilà le programme pour la dernière partie de Soir Info Weekend. Vous restez avec nous, s'il vous plaît. Quasiment 23h30 sur CNews. La suite de Soir Info Week-end avec Karim Abrik ce soir, Gérard Vespierre, Philippe Guibert, Sergueï Jernov et Pierre Gentillet. On va parler du cessez-le-feu. Est-ce que c'est possible ou non un cessez-le-feu dans ce conflit qui dure depuis maintenant 7 mois? Vladimir Poutine appelle Kiev au cessez-le-feu. Il y a eu une réponse très vive, très musclée de Volodymyr Zelensky. On en parle juste après le point sur l'information, ce qu'il ne faut pas manquer de l'info ce vendredi.
LFI refuse de participer au cycle de concertation sur la réforme des retraites. Il va être lancé par le gouvernement. Le groupe de la France Insoumise parle de mascarade. Il promet, je cite, de répliquer par tous les moyens dont il dispose. En Iran, le mouvement de contestation entre dans sa troisième semaine. Il fait suite à la mort d'une jeune femme arrêtée par la police des mœurs le 16 septembre dernier. Les autorités iraniennes durcissent pourtant la répression. Au moins 83 personnes seraient mortes. En Afghanistan, au moins 20 personnes ont été tuées vendredi à Kaboul. Les victimes sont en majorité des filles. À l'origine de ce drame, un attentat suicide contre un centre de formation d'étudiants. Il a eu lieu dans une zone à prédominance musulmane chiite où vit la minorité Hazara.
Voilà pour le point sur l'information. Depuis le début du conflit, parce que je me suis un peu rencardé pendant l'émission, à savoir le 24 février dernier, selon le ministre de la Défense, Sergueï Choïgou, le bilan officiel fait état de 5937 morts du côté russe, selon les autorités ukrainiennes, ou multiplié par 10. C'est d'ailleurs très intéressant, parce que depuis 7 mois, on a un conflit sur le terrain, on a un conflit économique qui touche la planète, et il y a une guerre de communication. Et d'ailleurs, Vladimir Poutine aujourd'hui, qui a donc annexé 4 territoires ukrainiens, appelle en même temps au cessez-le-feu. Et il appelle Kiev au cessez-le-feu. On écoute.
Nous appelons le régime de Kiev à immédiatement cesser toutes les actions militaires, cette guerre qu'ils ont commencée en 2014, et de revenir à la table des négociations. Nous sommes prêts à cela et nous l'avons déjà dit. Mais le choix de ce référendum, nous ne le remettrons pas en question. Il est fait. La Russie ne le trahira pas, ce choix.
Réponse quelques minutes plus tard de Volodymyr Zelensky depuis Kiev.
Le président Poutine ne sait pas ce que sont la dignité et l'honnêteté. Par conséquent, nous sommes prêts à un dialogue avec la Russie, mais avec un autre président de la Russie.
Cher Robespierre, Poutine veut faire la guerre ou la paix ?
Je pense qu'il est maintenant intéressé à faire la paix. Parce que, initialement, le 23 février, je veux conquérir l'Ukraine. On essaye d'avoir Kiev. Ensuite, au mois d'avril, on se replie vers le Donbass. Et puis maintenant, les Ukrainiens contre-attaquent. Donc le territoire que la Russie a contrôlé en Ukraine n'a fait que se rétrécir. Le référendum était prévu pour la fin de l'année. Il a été urgemment ramené maintenant pour justement geler, sanctuariser, comme disent les militaires, le territoire.
Revoyons la carte et les territoires qui ont été donc annexés par la Russie. Parce que ce qui est intéressant, Sergueï Jirnov, c'est qu'il y a un enjeu. C'est-à-dire que maintenant, si ces territoires sont maintenus, la Russie assoit un peu plus son territoire, sa puissance, sur quoi ? La mer Noire et la mer d'Azov.
La mer d'Azov,
elle était déjà.
Disons, juste pour terminer, donc la Russie est arrivée à un point bas de sa conquête territoriale. Donc le référendum a été conçu pour geler et avoir un minimum de conquête. Donc maintenant...
Sergueï Jirnov.
Poutine a besoin d'un cessez-le-feu et ça c'est aussi un aveu de faiblesse parce qu'en fait quand on parle de pourparler, c'est-à-dire que c'est lui qui a besoin. En revanche, les Ukrainiens actuellement, ils poussent, ils sont forts, ils ont reçu des armes occidentales qui sont très puissantes, ils vont recevoir maintenant encore plus d'armes. Et donc, les Ukrainiens, d'un côté, ne veulent pas un cessez-le-feu, et de l'autre côté, Zelensky ne peut pas proposer un cessez-le-feu parce qu'il sera balayé en Ukraine, politiquement.
Autre déclaration de Volodymyr Zelensky, alors on ne va pas l'écouter, mais je vous l'ai dit, cet après-midi, en urgence, il a préparé une demande d'adhésion à l'OTAN. Alors qu'est-ce qu'on fait, Philippe Guibert ? Est-ce que l'Ukraine doit intégrer l'OTAN ?
Mais je ne suis pas sûr qu'elle soit acceptée, cette demande. Mais il est obligé de monter dans la gamme, Zelensky, parce qu'il sent le piège que vous
voulez. De communication, comme on disait tout à l'heure.
Il sent très bien le piège, c'est-à-dire qu'à partir du moment où Poutine va être aussi, à mon avis, dans une démarche de geler la conquête et d'obtenir un cessez-le-feu, ou en tout cas une accalmie des combats, puisqu'il perd du territoire, Zelensky est coincé, puisque lui est en pleine offensive. Et donc, il est obligé de monter dans la surenchère. Et donc, il a dit deux choses. Il a envoyé une lettre pour demander l'adhésion à l'OTAN.
ce qui est un casus belli énorme pour Poutine. Et puis d'autre part, il a dit qu'il voulait bien négocier, mais avec quelqu'un d'autre que Poutine.
Oui, c'est
ça. Quand il y aura un autre président de la Russie. C'est-à-dire, autant dire qu'il ne veut pas négocier, puisque Poutine, d'ailleurs, tout le monde pensait qu'il était affaibli, enfin, jusqu'à preuve du contraire, dans le maintien de son pouvoir en Russie, Poutine a quand même l'air de tenir les choses pour l'instant.
Alors, sur l'OTAN, j'aurais juste ajouté ceci.
Bien sûr, allez-y.
Zelensky a été élu sur un programme adhésion à l'OTAN. En 2017, la constitution ukrainienne a été modifiée pour adhésion à l'OTAN, et en 2019, la loi a été votée pour justement entériner cette décision. Donc c'est toute une progression de l'Ukraine dans cette démarche.
Mais quand on a un discours aussi va-t-en-guerre du côté des États-Unis ou même de l'OTAN et le secrétaire. Bon, si vous voulez, très intéressant. Ou va-t-en paix, bien évidemment. Vous avez raison.
Force défensive.
Non, mais vous avez raison.
Sur les chars de l'OTAN.
Vous avez entièrement raison, Gérard Vespierre. Mais vient quelque chose de très important, factuel, qui pourrait être un tournant dans ce conflit. C'est-à-dire, est-ce qu'on intègre l'Ukraine dans l'OTAN ? Parce que si on intègre l'Ukraine dans l'OTAN, c'est une guerre mondiale, on est bien d'accord ?
Pas forcément.
Mais si vous attaquez l'Ukraine alors que vous êtes membre de l'OTAN...
Regardez l'arrivée de la Finlande, n'est-ce pas ? La Finlande à 1350 kilomètres. La Finlande a 1350 kilomètres de frontières communes avec la Russie.
Mais vous n'avez pas vu un soldat russe en Finlande.
Et donc, ça ne pose aucun problème à la Russie.
Mais vous n'avez pas vu un soldat russe en Finlande.
À la frontière russo-finlandaise.
J'entends, mais vous n'avez pas vu un, je répète.
Le problème, Elliot, c'est la frontière commune entre l'OTAN et la Russie.
Vous avez raison également. Ce que je veux dire par là, c'est que Jens Stoltenberg, qui est le secrétaire général de l'OTAN, qui a parfois eu des mots très durs à l'encontre de la Russie, sur la question de l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN, il botte en touche. Il explique que pour qu'il y ait adhésion, il faut unanimité.
Absolument.
Vous avez donc compris que l'Ukraine ne sera jamais dans l'OTAN.
Mais donc c'est des choses à négocier.
Mais c'est des choses qui sont malheureusement qui sont de l'ordre du fantasme.
Mais de toute façon,
vous savez très bien que l'Ukraine ne sera jamais dans l'OTAN.
Annexion contre OTAN.
Allez.
Oui, non, mais
un dernier mot avec vous, Pierre Gentier.
Je pense qu'il faut l'espérer parce que ça va. Ou alors, il faut assumer effectivement que nous sommes en guerre. Parce que si l'Ukraine. Alors, certes, la Finlande a adhéré ou va adhérer effectivement à l'OTAN, mais la Finlande n'est pas en guerre avec la Russie, alors que l'Ukraine est en guerre avec la Russie. Alors la Russie utilise pas ce vocable, mais concrètement c'est ça, c'est des soldats qui tuent
sur le terrain.
Mais il y a déjà une frontière avec l'OTAN. La Lettonie, la Lituanie,
l'Estonie.
Je vous en prie, arrêtez de donner vos leçons de cours là, ça suffit quoi. Il y a déjà des frontières communes entre l'OTAN et la Russie.
350 km.
Bien sûr qu'il y en a des frontières. Donc, la question ici, c'est de savoir est-ce que nous voulons aller vers une co-belligérance. Je pense que nous n'avons certainement pas intérêt à aller là-dedans. Ce n'est pas une guerre que nous devons ici livrer.
Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce conflit russo-ukrainien et cette journée historique, selon Vladimir Poutine, l'annexion des quatre territoires ukrainiens. Et je vous remercie pour la qualité des débats, parce que c'était très intéressant. Et je remercie également Antoine Durand, qui est notre journaliste reporter d'images, qui nous a permis d'avoir ces questions que vous ont posées les étudiants. Mais il n'y avait pas que des étudiants, d'ailleurs. Venons-en à l'actualité française. Le préfet de l'Hérault, qui est au cœur d'une... C'est formidable, ça. Au cœur d'une polémique vive à cause d'un tweet qu'il a d'ailleurs supprimé. Hier, on pouvait lire sur le compte officiel de la préfecture ce tweet. « Je veux en finir avec la délinquance des SDF étrangers à Montpellier. 104 gardes à vue depuis août, Algériens, Marocains en majorité, responsables de nombreux vols et violences avec armes. Nous serons intraitables. Les CRS ont instruction de ne pas lâcher. Mais ce qui a fait polémique, c'est cette dernière phrase. Ils ne sont pas les bienvenus. » On va voir le sujet de Quentin Gribel qui récoltait les déclaration des responsables politiques de la France insoumise et ensuite on en parle.
C'est un tweet qui fait réagir. Hier après-midi, le compte officiel du préfet de l'Hérault, Hugues Moutou, poste une réponse à un article de journal évoquant un déséquilibré arrêté après avoir tenté de poignarder des passagers d'un TER.
Je veux en finir avec la délinquance des SDF étrangers à Montpellier. 104 gardes à vue depuis août. Algériens et Marocains en majorité, responsables de nombreux vols et violences avec armes, nous serons intraitables. Les CRS ont instruction de ne pas les lâcher. Ils ne sont pas les bienvenus.
La publication a rapidement été supprimée, mais son contenu a indigné la députée La France Insoumise de l'Hérault, Nathalie Auziol.
ils ne sont pas les bienvenus. Enfin, pour rappel, la préfecture, c'est le premier interlocuteur pour des personnes qui voudraient, par exemple, acquérir la nationalité française. Donc, c'est à l'envers de ce qu'on attend. On ne dit pas, lorsqu'on est préfet, à des personnes d'origine étrangère qui ne sont pas les bienvenus sur le sol français.
Robert Ménard, lui, a apporté son soutien à Hugues Moutou.
Où est le problème? Devrait-il souhaiter la bienvenue aux SDF étrangers délinquants majoritairement originaires d'Algérie et du Maroc? Soutien total au préfet de l'Hérault qui a dû supprimer son tweet.
La préfecture de l'Hérault n'a pour l'instant pas réagi.
Est-ce que la préfecture de l'Hérault a dit tout haut ce que pensent les gens parfois tout bas, c'est-à-dire les délinquants étrangers et sans-abri n'ont rien à faire sur le territoire français?
Mais attendez, il y a quelque chose que je ne comprends pas là. C'est-à-dire qu'on est bien d'accord que cet été, le ministre Darmanin, il me semble pour la première fois, a donné les chiffres de la part des étrangers dans la délinquance. Et de mémoire, je les connais, c'est 39% pour Lyon, 48% au Paris et 55% pour Marseille. Donc là, en fait, si je comprends bien, le préfet, il enfonce une porte ouverte. Et il ne parle pas des étrangers. Il dit les délinquants étrangers. En plus, enfin, c'est évident.
C'est ça, on voit qu'il y a vraiment de la récupération.
Donc là, il supprime son tweet, parce que je pense qu'effectivement, il s'est peut-être fait taper sur les doigts. Mais qui est son supérieur? Qui est le supérieur du préfet? C'est le ministre de l'Intérieur. Qui nous a tenu ce discours de fermeté pendant l'été et nous a sorti ces chiffres de rapport entre la délinquance et l'immigration? C'est le ministre de l'Intérieur. Donc, soit le ministre de l'Intérieur a deux cerveaux ou deux lobes de cerveau qui ne correspondent pas, soit je ne comprends plus rien. Et les réactions là-dessus de la France insoumise sont évidemment en dessous de tout et elles sont à l'image de la ligne, malheureusement, qui est la sienne depuis malheureusement plusieurs années. On parle bien des délinquants étrangers, donc c'est une évidence.
Il était même allé plus loin,
les délinquants étrangers
Gérald
ne sont
Darmanin.
Pas les bienvenus
il
ici.
Il était allé plus loin, Gérald Darmanin, il avait dit que les étrangers représentent 7,4% de la population et 19% des actes de délinquance.
Bon, le tweet du préfet, jusqu'avant la dernière phrase, elle est factuelle.
Voilà.
Que des délinquants étrangers doivent être traités par la police et par les CRS... Tout ça me paraît du bon sens. Il n'y a que cette députée LFI qui n'a pas l'air de voir...
Je peux vous en trouver d'autres, hein, mais...
Qui voit le rapport avec la nationalité française, qui est vraiment... il faut quand même aller le chercher. Et donc, lorsqu'ils disent 104 gardes à vue, Algériens et Marocains en majorité, responsables des vols et violences, ils font leur boulot d'information. Alors... Après, il y a cette phrase, ils ne sont pas les bienvenus, que tu n'es pas obligé.
C'est une mission de l'État. Mais c'est une mission
une petite,
de l'État.
C'est pardon, la mission de préservation de l'ordre public. Que tu une petite pique qui n'est pas bien méchante, mais où on sent qu'il y a eu une petite réaction agacée de la part de la préfecture. Je souligne, pour avoir longtemps fréquenté les taxes, l'autocensure, ça existe. Hein. Il n'y a pas forcément besoin d'un coup de téléphone.
Peut-être parce que l'autocensure était peut-être un peu trop présente à votre époque que finalement, on s'est retrouvé dans des situations...
À mon époque, elle n'est pas si lointaine.
Je sais, mais justement, ça fait 10 ans que la délinquance a explosé.
Les préfets sont vraiment placés... ils sont en première ligne de l'État sur les territoires. Et donc, la tradition des préfets en France, c'est quand même d'avoir une grande retenue dans l'expression.
C'est la question que j'allais vous poser. Là, est-ce qu'un préfet peut dire ça?
Il peut le dire, mais il a été un petit peu plus loin dans la tonalité que la tradition préfectorale.
Karima, voilà. Je vous donne la parole dans un instant, mais vous avez un ancien espion et énarque à côté de vous. Est-ce qu'un préfet peut dire ça, Sergueï Jirnov?
Il pouvait dire tout, sauf la dernière phrase.
C'est la dernière phrase qui vous choque?
Ouais. C'est pas qu'elle me choque.
Oui,
il n'avait pas le droit de le dire en tant que préfet.
Karima,
il n'a pas le droit.
C'est la personne qui parle.
Il est représentant de l'État. Et
oui,
mais ben,
justement,
fait,
comme disait Eliott, c'est qu'il y a peut-être un changement de ton, à tout le moins un changement de discours. Hein. On le voit au cours des derniers mois. Vous l'avez dit. Bon, est-ce qu'on peut, on peut pas, je sais pas, mais comme vous l'avez dit, il y a Darmanin qui a quand même envoyé un autre signal, il y a pas si longtemps encore. Oui, il y a Darmanin, et attendez, si vous allez sur le ministère de l'Intérieur, on voit encore ces chiffres-là, donc c'est ça que je dis...
Darmanin est un responsable politique, le préfet n'est pas un responsable politique.
Non, ouais. Mais
c'est pas une question politique, c'est une question juridique ici, c'est la préservation de l'ordre public, c'est une
démission
de l'État.
Et par ailleurs, regardez, on peut critiquer effectivement, ou non, dire est-ce que c'était habile, pas habile. Bon, c'est particulier quand même qu'il l'ait retiré son tweet, donc qu'est-ce que ça nous dit? Autocensure, un petit appel d'en haut, si c'est d'en haut de qui? Est-ce qu'il n'assume pas ses propos? Est-ce que c'est parce que c'est récupéré? Je ne sais pas. Mais on va quand même se rappeler le tweet. Il parle quand même, il parle de la délinquance, il parle de la garde à vue, il n'a pas dit les étrangers, fait...
Mais parce que personne, en fait... j'accepterai personne sur ce plateau dire les exactement. Immigrés sont des délinquants.
Ben non,
en revanche, je peux entendre sur
certains
ce plateau...
Immigrés sont
alors,
certains
quand,
immigrés sont...
quand il fait référence donc à la délinquance, à ces gardes à vue, est-ce qu'il aurait dû dire à ce moment-là dans son tweet, ils sont les bienvenus?
On va écouter Raphaël Stainville qui est souvent...
Donc il y a des propos, donc il y a des choses qu'il faut dire, pas dire.
Karima, ce qui peut être intéressant aussi, c'est de voir le profil de ce préfet qui a un parcours assez intéressant. Il était, son surnom c'était le bulldozer, et proche de Nicolas Sarkozy.
D'abord, ce qu'il faut dire, c'est que Hugues Moutou, c'est un préfet de choc. S'il y avait plus de préfets comme ça en France, je pense.
On parle du problème. Préfet bulldozer.
C'est vrai. Alors, c'est un ancien des cabinets de Sarkozy lorsqu'il était président. Il est connu pour son franc parler. Et je pense que dans l'Hérault, les actions qu'il mène conduisent à un certain nombre de résultats. Ce qui me sidère, c'est que la parole de ce préfet, alors je comprends qu'un préfet ne puisse pas forcément s'exprimer comme ça, en tout cas on est tellement peu habitué à ce que les préfets assument une politique et affichent une politique volontaire qu'on s'émeut, qu'ils rappellent un certain nombre d'évidences, mais bien évidemment que les SDF étrangers délinquants ne sont pas le bienvenu chez nous.
Ce qu'on pouvait dire sur l'Hérault, on n'a pas entendu le préfet du côté de Nantes, mais il a fait preuve peut-être d'une grande discrétion ces derniers mois. Et un bulldozer, il en faudrait peut-être un à Nantes, ville que vous connaissez bien, Philippe. Il fut un temps où Nantes était au premier rang des villes françaises où il faisait bon vivre. C'était il y a 10 ans.
Exactement. Un petit peu moins, c'est encore tout à fait.
Et en quelques années, Nantes a basculé dans la délinquance.
Je vous laisse continuer.
Non, c'est quoi, allez-y.
Il y a deux phénomènes concomitants. D'abord, les trafics de drogue qui explosent comme partout. Là, c'est vraiment pas spécifique à Nantes. C'est-à-dire que des quartiers qui étaient un peu chauds il y a 15 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans, sont devenus des centres de trafic de drogue. Et puis, il y a un deuxième phénomène, c'est qu'il y a une arrivée de migrants légaux et illégaux, enfin, ou clandestins, qui sont arrivés là depuis quelques années. Dans un contexte où il s'est répandu l'idée, je dis pas que c'est la réalité, il s'est répandu l'idée que la préfecture de Loire-Atlantique était plus accueillante ou donnait des papiers plus facilement que dans d'autres préfectures.
J'entends.
C'est la réputation qu'a eu.
Non, mais c'est pour ça que j'attends.
Et puis il y a des associations très actives de défense des migrants à Nantes.
Oui.
Et donc ça a conduit à une augmentation de la délinquance qu'on est obligé de la criminaliser.
Mais vous savez, juste
qu'il faut bien reconnaître Philippe, et que la mairie a mis un peu de temps à reconnaître.
Philippe Guibert, moi je suis très attentif aux chiffres sur les faits de délinquance pour stupéfiants et pour le trafic de drogue. Et je ne suis pas sûr, et je continue à m'en renseigner, qu'il y ait une véritable explosion, par exemple, entre 2016 et 2022, du trafic de stupéfiants à Nantes. C'est-à-dire que l'argument sur la drogue, je ne suis pas sûr qu'il y ait vraiment...
Il y a eu des règlements de compte.
Ah, mais énormément de règlements de compte. Mais
ça n'existait pas il y a 10 ans.
Mais c'est possible. Écoutons Johanna Roland, parce que vous avez parlé de la maire de Nantes, qui va recevoir, ou qui va rencontrer plutôt mardi, Gérald Darmanin. Et c'est vrai que le discours de la maire de Nantes a un peu évolué. Il faut le dire, ces derniers jours,
avec positivement, la pression médiatique,
avec la pression médiatique qu'il y a pu avoir. En tous les cas, Nantes a été au cœur, malheureusement, de l'actualité sur les phénomènes d'insécurité et d'immigration ces derniers jours. Et il faut encore une fois féliciter Jean-Marc Morandini, qui est l'un des seuls à avoir fait, si ce n'est le seul, une émission d'une heure et demie sur le terrain où il a donné la parole aux Nantais.
Nous avons besoin de plus de moyens, de police et de justice, pas simplement pour 2 jours, mais dans la durée. Avec 2 demandes précises. La première, une unité de force mobile qui devrait, à notre sens, être affectée à Nantes pleinement et qui ne se retrouve pas envoyée ailleurs pour des raisons légitimes et qui, du coup, n'est plus disponible pour les Nantaises et les Nantais. La deuxième demande, c'est de dire, nous avons notamment sur le centre-ville un sujet, chacun le sait, chacun le voit, le soir et la nuit. Nous sommes donc prêts à mettre à disposition l'ensemble des forces municipales et métropolitaines, d'y ajouter évidemment les forces nationales qui sont présentes aujourd'hui et les forces supplémentaires que le ministre serait prêt à nous accorder. Notre souhait, notre volonté, c'est comment il y a une présence maximum de 22h jusqu'à 6h le matin, notamment sur Bouffay, sur Feydeau et sur Commerce.
Alors pourquoi elle dit ça? Déjà parce que les trois quartiers, c'est les trois quartiers les plus chauds, entre guillemets, sensibles de Nantes, mais c'est surtout que la police municipale à Nantes n'est pas armée, qu'elle s'arrête à minuit et qu'elle ne travaille pas le dimanche. Pierre Gentil, quel regard vous portez sur cette semaine où effectivement les caméras ont été braquées sur la ville nantaise, sur les questions de sécurité et d'immigration?
Faut d'abord dire, effectivement, c'est pas depuis une semaine. Ça fait depuis plusieurs mois, en fait, que les faits divers se multiplient à Nantes. C'est vrai. Et c'est vrai que là...
Non, mais je parlais de toutes les caméras. On a même vu au JT de TF1 un sujet sur Nantes. Oui. Ça devait faire très longtemps qu'il n'y avait pas eu...
Bien sûr. Mais justement, on en parle maintenant de ces problématiques-là. On parle effectivement de ce phénomène à Nantes. Moi, Nantes, personnellement, j'ai de la famille qui est à Nantes. Et on m'en parle depuis... quelques années, effectivement, ça a changé, comme on dit. Et effectivement, ce n'est plus une ville sûre, en particulier le centre de la ville. Et d'ailleurs, là où cet horrible viol s'est déroulé, vous savez, avec, je crois qu'ils étaient trois étrangers, eh bien, on est dans le centre de Nantes. Donc, on a effectivement un changement de cette ville. On a un ensauvagement, c'est certain. On a une réaction de la maire, c'est très bien, c'est à saluer. Vous voyez, peu importe la couleur politique, rien. C'est peut-être un peu tardif, mais écoutez,
mieux vaut tard que jamais.
C'est exactement ce que j'allais dire. Mieux vaut tard que jamais. Mais pourtant, quand même. Moi, j'ai vu l'émission de Jean-Marc Morandini et je me dis qu'il y a quand même encore de la cécité dans ces élites ici municipales qui dirigent la ville de Nantes. Parce que quand Jean-Marc Morandini interroge un adjoint au maire, et à cet adjoint au maire, il lui dit « mais la police municipale, elle est là pour arrêter les délinquants trafiquants de drogue », et il répond « mais non, elle n'est pas là pour ça, la police municipale ». Puis il le reprend, et puis il finit quand même par sortir. Donc il y a un déni quand même idéologique, il ne faut pas sous-estimer. Pour autant, et je termine là-dessus, ce n'est pas que la faute de la mairie, il faut le dire. C'est un sujet politique national. Ici, quel est le sujet? On parle beaucoup à Nantes en particulier. Et à Bordeaux. C'est les deux villes qui sont, semble-t-il, les plus touchées, avec Rennes d'ailleurs de mémoire, du phénomène des... Non, des mineurs. Je parle des mineurs isolés. Oui. Qu'est-ce que c'est un mineur isolé? Ce sont des mineurs étrangers, d'accord? Et ils ont une représentation dans la délinquance de ces villes qui est tout à fait incroyable. Donc, il y a une action à mener au niveau des pouvoirs publics, au niveau du contrôle de l'immigration, et évidemment au niveau de l'exécution des obligations de quitter le territoire français, dont je vous rappelle que 90 à 95% ne sont pas exécutés. Donc c'est aussi une question de volonté nationale.
Volonté nationale, Karima, ce sera le mot de la fin.
Oui, en fait, il y avait un message à envoyer, je pense, à la population, au moins qu'on prenait les choses à bras-le-corps et on allait faire quelque chose. On attendait ce message. Bon, c'est venu. Effectivement, tout le poids n'est pas sur la mairie, mais il fallait quand même envoyer ce message-là. Il n'était pas là. Donc, bon, ils prennent acte. On verra pour la suite des choses.
Eh bien, écoutez, c'est terminé. C'était un plaisir d'être avec vous ce soir. Très bien. On a pu traiter longuement de rien.
Merci, Eliott.
Beaucoup de réactions sur Twitter, par exemple. Une personne qui dit un préfet doit pouvoir dire la vérité.
Mais il a quand même une retenue, un devoir de réserve qu'il peut dire la vérité, mais sans rentrer dans la polémique.
À mon époque, c'était comme ça. Maintenant, ils ont des comptes Twitter, mais en même temps.
Sergueï Girnov, merci beaucoup. C'était un plaisir de vous avoir. Je rappelle votre ouvrage, L'engrenage, Que veut Poutine, ancien espion du KGB. Si vous pouvez reprendre tous les micros que vous avez mis autour de la table avant de partir, ce serait. Parce que je vous ai regardé.
Jamais de la vie.
Non, mais vous faites, voilà, vous les récupérez, c'est comme si de rien n'était, on oublie. On passe à autre chose.
Regardez quelques-uns pour vous quand même.
On se retrouve demain. Il y en a déjà beaucoup, notamment chez vous. Ne vous inquiétez pas. Allez, c'était un plaisir. Je remercie France Godfrapp, toutes les personnes qui ont travaillé pour cette émission. Et demain, 19h, ça se dispute. 21h, soir info week-end. À demain.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.